Alors bonsoir. Alors le sujet de ce soir est présenté de manière un petit peu étrange. Plusieurs personnes m'ont dit c'est quoi ce titre, la faute du tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Kamouvan, nous parlons ici de la faute béchogeg, c'est-à-dire sans faire exprès. Et en fait, le sujet va tourner autour d'une promesse faite par la Gemara. Qu'un tzaddik, Dieu le protège de ne pas faire de avérot. Des fois, on se trompe, on fait une avéra, voilà, le tzaddik est protégé, il a une protection, bon Dieu. Alors, comme ça, il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat. La Mishnah dans Shabbat, Daf Yudalef, Amud Alef, la Mishnah dit Lo ikra le oraner. Il ne faut pas lire à la lueur d'une lampe. Une lampe à huile, ça veut dire, on prend un peu d'huile, on met une mèche. C'est comme quand on prend un peu un verre, comme ça, certains mettent des veilleuses, un verre, on met de l'huile. Il ne faut pas lire à la lueur d'une lampe à huile. Pourquoi? La Mishnah ne dit pas. Mais il ne faut pas lire. On sait pourquoi. La Gemara va l'expliquer. C'est parce qu'on craint qu'une fois qu'on arrive, une fois que l'huile va commencer à se terminer, ça va arriver vers le bas du verre. Alors on ne verra rien, ça va commencer à crépiter. Alors on va avoir tendance, le réflexe naturel, à l'époque pour eux qui s'éclairaient à la lampe à huile, de pencher le verre pour regrouper l'huile dans un coin et que la flamme reprenne de plus belle. Et ça, c'est assur, Minatora, parce qu'on a grandi la flamme, on a grandi un feu, ça c'est assur. Donc dit la Mishnah, Loïkra le Oraner, sans expliquer pourquoi. Mishnah dit juste, il ne faut pas lire à la lueur de la lampe à huile. Dans la Gemara, plus loin, Daf Yudbet Amud Bet, la Gemara explique donc quel est le problème dans cette lecture. Et la Gemara nous dit, sur Rabbi Ishmael ben Elisha, donc c'était un Tana, Rabbi Ishmael le Tana, qui lui a transgressé cet interdit rabbinique et il a lu à la lueur de la lampe à huile, à Shabbat. C'est interdit midrabanan. Lui, il a fait, il s'est dit, c'est bon, quelqu'un comme moi, ça craint rien, c'est tranquille, j'ai pas de soucis, je peux le faire. Je vais pas pencher, moi je suis un tzaddik, etc. C'est bon, moi je fais pas des bêtises pareilles, je sais, je connais la gravité du Shabbat. Donc il a lu à la lueur de sa petite lampe à huile. Et la Gemara dit, Bikesh Leatot. Et il a failli pencher le verre. Il a lu, bon, commencé à crépiter. Hop, il a tendu la main, il a failli faire pencher le verre. Ça aurait été vraiment le issur minatora, le issur grave pour lequel il y a eu la takana des rabbins, l'interdit de lire à la lueur d'une lampe. Et heureusement, il s'est rappelé avant. Ça, c'est ce que la Gemara raconte. Après ça, la Gemara dit, il y a une autre version de cette histoire, moins joyeuse, moins sympathique, celle selon Rabbi Nathan. Il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Nathan, lui, il dit non, c'est pas ça qui s'est passé. Rabbi Ishmael Kara Veita. Il a penché la lampe à huile. Il a réellement penché la lampe à huile pendant Shabbat. Il a transgressé Shabbat, certes sans faire exprès, mais il a transgressé Shabbat par erreur, parce qu'il a lu. Et c'est écrit là-bas que suite à cela, Rabbi Ishmael s'est dit, oy va voy, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il a dit, Kama gdolim divrei chachamim. Combien sont grandes les paroles des sages? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Kama gdolim divrei chachamim, il dit, Shamru lo ikra leoraner. Combien sont grandes les paroles des sages qui ont dit, qui ont mis en garde et ils ont dit ne lis pas à la lueur de la lampe. Les commentateurs expliquent, c'est que la grandeur des sages, c'est pas la phrase elle-même, c'est la non-phrase, c'est la suite qu'il n'y a pas. Les chachamim n'ont pas dit ne lis pas à la lueur de la lampe de peur que tu en viennes à pencher ton verre, à pencher ta lampe à huile après, parce qu'ils se sont dit si on dit ça, alors monsieur chacham, monsieur je sais tout, il va dire non, moi c'est bon, ça craint pas, et il va le faire et il va se tromper. Donc les Chachamim dans la Mishnah ont dit Loïkra le Oraner sans donner d'explication. Ils n'ont pas commencé à donner le Ta'am, la raison du Issour. Juste, ne lis pas à la lueur de la bougie. C'est ça la Gadlout des Chachamim. Il s'est dit, grâce à ça, au moins, on évite les problèmes. Lui qui connaissait la raison, il s'est dit, bah, c'est bon, je vais pas tomber dans le panneau. Et pourtant, il s'est trompé. Ça, c'est ce que la Gemara nous raconte. Là-bas, le Tosfot pose une question. Il dit, on a dit tout à l'heure qu'on a une règle, c'est une règle qu'on trouve dans plusieurs endroits dans le chasse, notamment dans Ktuvot Daf Kafret Amud Bet, on nous dit Eina Kadosh Baruch Hu Mevita Kala Alidei Tzadikim. Cette phrase, elle est comprise de différentes manières dans les Rishonim, mais en tout cas, telle que Tosfot la comprend, cette phrase nous dit que Dieu fait en sorte qu'un tzadik n'ait pas de takala, il ne va pas commettre un péché sans faire exprès. Dieu protège le tzadik de la Avera. En principe, un tzadik, il est protégé, il a une protection garantie tzadik par le bon Dieu. Devant Tosfot, alors comment ça se fait que Rabbi Ishmael, Kara Veita, selon Rabbi Nathan, comment ça se fait que Rabbi Ishmael a, oui, penché le verre pendant Shabbat, théoriquement, un tzaddik est protégé de la faute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la seule question. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans le chasse où on voit des tzaddikim qui ont commis des fautes sans faire exprès. Tosfot en cite quelques-unes, notamment il y a l'histoire de Yehuda ben Tabaï qui a tué un Ed Zomem. Etzomem, il y a une halakha, Etzomem et Chayav Mita, s'il voulait entraîner une mort, mais uniquement s'il y a eu Hazama, contradiction d'une certaine manière, des deux témoins. S'il y a eu la contradiction de cette certaine manière que d'un seul témoin, dans ce cas-là, il n'y a pas Triyuv Mita. Et pourtant, lui, il l'a condamné à mort. Mais Alpi Alakha, il ne l'était pas. Alors, il a tué un voyou, certes, ce type-là, c'était un assassin potentiel, certes, mais il n'était pas Chayav Mita au Bedin. Il s'est trompé, il a commis une erreur et lui-même s'en est repenti. Il a pleuré pendant de longues années. Il a été repris par Shimon Ben Shetar qui lui a dit t'as pas le droit de faire ça, etc. Et après, il est allé pleurer pendant des années, demander Mechila. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort maintenant. Ça, c'est l'erreur de Yehuda Ben Tabai, qui était un Tana à l'époque des Zougot. Donc voilà une erreur aussi, c'est dans Makot d'Afeyam Udbet. C'est une erreur aussi dont le Tosfot parle. Une autre erreur dont le Tosfot ne parle pas, c'est l'erreur de Rav Menaché dans Maseret Sanhedrin, d'Absamer Darlet Amud Aleph. Pour ceux qui étudient Sanhedrin avec nous le matin, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Rav Menaché, par erreur, a commis une avéra assez grave, Avodah Zara. Il a fait Avodah Zara par erreur. Il s'est trompé. Il y a un rab qui s'appelait Rav Menaché, il est arrivé dans une ville, on lui a dit, il a vu une idole, il a dit bouh, et hop, il a lancé une motte de terre dessus. Et après, on a dit, mais cette idole, c'est Marcoulis, c'est l'idole dont le culte consiste justement à lui lancer quelque chose dessus. Donc, tu as fait la Avera. Béchogeg, il n'a pas fait exprès, il ne savait pas. S'il avait su, il ne l'aurait pas fait. Néanmoins, il a transgressé la Avera quand même. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait de la garantie bon Dieu? On a dit qu'il y a une garantie bon Dieu, t'es tzadik, je te protège. Alors quoi? Il faut dire que ce n'était pas des tzadikim, tous ces rabbins, c'est pas possible. Il y a encore une autre Gemara que le Tosfot ne cite pas, mais qu'il aurait pu citer aussi dans Sanhedrin, un peu plus haut, Dafnun Bet Amud Bet, où la Gemara nous raconte que Rav Chama Bar Tuvia a condamné une Bat Kohen chez Zimta, il l'a brûlée, etc. Il l'a brûlée en mode Jeanne d'Arc. Or, c'est pas ça le Chiyuv Srefa au Bet Din, c'est pas le bûcher Chiyuv Srefa au Bet Din, c'est Petit Lat Ever, c'est la petite lamelle de plomb fondue, etc. Je vous passe les détails. Mais, et deuxième erreur qu'il a commise aussi, c'est qu'à l'époque de ce rabbin-là, à l'époque de Rav Chama Bar Tuvia, les dîners nefashot étaient déjà plus praticables, abolis entre guillemets, puisqu'il n'y avait plus le Sanhedrin au Lishkat Hagazit. Donc il a commis des erreurs graves. Comment c'est possible? C'est un tzadik, alors pourquoi? C'est pas normal tout ça. Il y a encore un autre texte dans la Gemara qui nous raconte au sujet de Rabbi Lazar ben Shamua et de Rabbi Yossi. Ils se disputaient sur un texte, ils n'étaient pas d'accord, etc., etc. Et dans la dispute, malheureusement, à force de dispute, ils ont déchiré le livre, ils ont déchiré le Sefer Torah. Ils se battaient sur un Sefer Torah. Mais non, regarde, mais si, mais non, et hop, ils ont déchiré le Sefer Torah. C'est pas grave, ça? Il va voir comme c'est grave, c'est écrit dans la Gemara, dans Yevamot, Daf Tzadik Vavamut Bet. Nous, alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces tzadikim qui ont réellement... Ils ont eu une takala, ils ont commis une avera, certes, Béchogeg, mais ils ont fait une avera. Il y a ici avera. Donc, demande Tosfot, pour toutes sortes de averot qu'on trouve chez les tzadikim dans le chas, comment ça se fait? La Gemara nous dit qu'il y a une protection des tzadikim qui ne feront pas de averot, et pourtant on voit plusieurs tzadikim dans la Gemara qui ont commis des averot. Et là, Tosfot vient avec un grand chidouche. Et il dit, quand on nous dit que HaKadosh Baruch Hu protège le tzadik de la avera, c'est pas une protection contre toutes les averot. C'est une protection contre certaines averot. Une avera très particulière. La protection ne concerne que Midei de Achila, la consommation non cachère. Uniquement des issurim de consommation. Manger quelque chose de pas cachère, ça non. Ça, Dieu ne veut pas que le tzadik, sans faire exprès, commette un issur achila, une avera de consommation. Ça, il n'y a pas de péché de consommation chez le tzadik, ça ne se résume qu'à cela, dit Tosfot, la protection du tzadik. Dieu ne protège pas le tzadik de n'importe quelle avera. On a vu certains tzadikim ont déchiré un sefer Torah, l'autre il a fait avodah zara, l'autre il a tué quelqu'un. Il y a eu des averot, et il y en a un qui a transgressé Shabbat, il y a eu des averot, parce que ce ne sont pas des averot de consommation. Dieu ne protège le tzadik que de la avera de consommation, c'est ce qu'écrit le Tosfot donc dans Maseret Shabbat Daf Yud Bet, et ce Tosfot se retrouve dans 5 endroits dans le chasse. Il est dans Shabbat Daf Yud Bet Amud Bet là-bas, il y a aussi dans Gittin Daf Zayn Amud Alef, il y a dans Psachim Kuvav Amud Bet, Yevamot Tzadiktet Amud Bet, Chulin Hei Amud Bet. Il est intéressant de noter que tous ces Tosfotim sont tous des Tosfot Tour. Vous savez que le Tosfot, ce n'est pas toujours le même auteur. Tosfot Tour, c'est Rabbi Eliezer de Touk. Chacune de ces Masertot là, Shabbat, Gittin, Yevamot, Psachim, Chulin, c'est des Masertot dont le Tosfot imprimé dans la marge, c'est le Tosfot Tour. Donc c'est le même rabbin, c'est la même école. Et à chaque fois, la réponse est que la protection ne concerne qu'un problème, qu'un issour consommation. Les autres issourim ne sont pas concernés. Ça ne fait pas à l'unanimité au niveau des rishonim cette idée-là. Le Ramban n'est pas d'accord avec ça. Le Ramban dans Chulin Daf Hei Amud Bet cite cette idée du Tosfot et s'y oppose. Il dit que c'est cette histoire. Quelle différence il y a entre un issour consommation ou un issour autre chose? Qu'est-ce que ça change? Enfin, un péché, ça ne change rien. Donc le Ramban n'aime pas cette idée-là, et donc il explique autrement, il justifie autrement, il ne veut pas suivre l'opinion du Tosfot là-dessus. Bon, ça, c'est la préface. Donc cette idée du Tosfot qui nous dit que la garantie de Dieu, quand on dit Dieu garantit au tzaddik qu'il ne fera pas de péché, c'est uniquement des péchés de consommation. Il y a un poisson qui est appelé dans le langage rabbinique barbuta. Beaucoup pensent que c'est la barbu à épines ou la barbu tout court. Bref, il y a un poisson. Il se trouve que lorsqu'il est en étalage chez le poissonnier, il n'a pas d'écailles. Vous connaissez la règle, un poisson qui n'a pas d'écailles n'est pas cachère. C'est un poisson sans écailles. Néanmoins, Rabbeinu Tam écrit, on a un shitat Rabbeinu Tam, ramené dans le Tosfot de Maserhet Avodazara d'Afmem, Amud Alef. Rabbeinu Tam dit, ce poisson est cachère. Ah, il n'a pas d'écailles, c'est pas grave. En fait, il a des écailles. Mais il a des écailles que lorsqu'il est dans la mer. Quand il est pêché, il perd ses écailles. Apparemment, il a... Pardon ?
Comme
les spadons. Les spadons perdent ses écailles à la pêche ? Ok. Ouais, ok, il y a le turbo aussi. Bon, il y en a beaucoup des comme ça. Il y a des poissons qui perdent les écailles. Il y a, vous savez que les écailles, c'est pas toujours... D'abord, beaucoup de poissons perdent leurs écailles même en dehors de la pêche. Il y a des poissons, quand ils ne se sentent pas bien, quand ils ont des problèmes psychologiques, les poissons rouges, ils perdent leurs écailles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Non, mais c'est vrai, hein, je rigole, mais c'est vrai. Oui, des fois, ils ont des problèmes. Ah, si. Moi, je suis psy pour poissons, donc je m'y connais. Non, les poissons, même des poissons comme ça d'appartement, le petit poisson rouge, il peut perdre ses écailles s'il ressent un danger, s'il est mal nourri, si l'eau est trop sale. Il y a plein de... Les écailles, c'est juste qu'ils tombent, c'est comme les cheveux. Des fois, ça repousse, des fois, non. Bref, en tout cas, donc, on parle d'un poisson. Peu importe comment il s'appelle, est-ce que c'est celui-là ou celui-là, on va dire barbuta, on va l'appeler tel qu'il est appelé dans le Tosfot. Le barbuta dit Rabbeinu Tam, il est cachère. Il n'a pas d'écailles, mais il est cachère parce que réellement, dans la mer, il a des écailles. Nous, ce qui nous importe, c'est que ce soit une race qui ait des écailles. Après, s'il les perd quand il est pêché, c'est pas grave. Si on est sûr que sous l'eau, il a des écailles, c'est bon. Ça, c'est ce que dit Rabbeinu Tam. Il y a dans le Harour aussi de Rabbi Nathan de Rome, c'est un contemporain de Rachi. Le Harour, c'est un rabbin donc, qui était en Italie. Dans Erer Akunas, il écrit, il parle aussi d'un poisson similaire à ce barbuta, un poisson qui perd ses écailles lorsqu'il est pêché. Il dit, il est cachère, pas de souci, il est cachère. Mais attention, c'est pas quand je viens chez le poissonnier, tiens, ça doit être celui-là et je le prends au pif. Ah ben non, parce que quand je viens chez le poissonnier, il faut vérifier qu'il y ait des écailles. Il dit, vedavka de yadrinan, ou makirin bahen, ou morzakin beyad daine israel, shemesirin kaskesoten becha sheolin minayam. Il dit, ces poissons qu'on dit, sur lesquels on dit ils sont chéris, même s'ils n'ont pas d'écailles, parce qu'on sait qu'ils avaient des... C'est uniquement si on sait clairement, on est Mourzak, c'est clair. C'est Mourzak qui dit Beyad Daïné Israël, les juges, les Dayanim juifs attestent que ce poisson, c'est un poisson à écailles théoriquement. Là, il est caché. Ça, c'est ce que dit le Harour. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, c'est fort étrange. Pourquoi il faut que ce soit des Dayanim qui le certifient? On n'a pas besoin de Dayanim. La règle dans la Gemara, c'est quoi? Edechad ne'eman be'isourin. Un juif kacher, il est ne'eman. Pas besoin de Dayanim qui certifie que ce poisson a des écailles. Si un juif qui mange kacher, qui fait attention à la kashrout, me garantit que ce poisson a des écailles, c'est bon. Il n'y a pas de souci, c'est pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors pourquoi il nous parle de Dayiné Israël? Il faut des Dayanim. Et une deuxième question, quand bien même il faudrait des Dayanim pour certifier la présence d'écailles à l'origine sur ce poisson? Pourquoi Dayiné Israël? Pourquoi il nous précise qu'il faut des Dayanim juifs? Que tu penses, j'allais croire des Dayanim non juifs au tribunal? C'est quoi ces histoires Dayiné Israël? C'est un non-sens. Ce texte n'est pas normal. Il y a un problème. Il semblerait qu'il y ait une erreur dans le Harour à cet endroit-là. J'ai vu dans le Harour Hachalem de Kohout, dans Harour Hachalem, c'est dans Chelek Aleph, page Reish Numchet, il cite un manuscrit du Harour dans lequel le texte est un petit peu différent. Au lieu de Beyad Dayiné Israël, il est écrit Beyad Tsaïdé Israël. C'est Mourzak chez les chasseurs juifs, pas chez les rabbins, pas chez les Dayanim. Un chasseur, les chasseurs, ça veut dire en fait ici les pêcheurs, ça voudra dire Tsaïdé, un Tsaïad, c'est un chasseur. D'ici, c'est pourquoi il a utilisé l'expression Tsaïad, probablement parce que c'est l'expression utilisée dans la Tosefta de Maserhet Avodah Zarah, Perekhe à la Chahé, et aussi dans la Gemara Khoulin, on voit Samer Gimel Amoudbet dans Khoulin, on nous dit. Ne'emana tsayad lomar, ze oftame ve ze oftaor. Le tsayad, le chasseur, est cru de dire sur la volaille, ça c'est une volaille kshera et ça non. Si on ne peut plus vraiment distinguer c'est quoi cet oiseau, lui il peut dire, moi je reconnais cet oiseau, je peux te dire, je m'y connais en oiseau, je suis chasseur, je peux te dire, celui-là, oui, c'est fait partie de tel et tel, c'est un oiseau kasher. Donc là, il dirait la même chose, pareil pour les poissons, c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui peut le dire. Si déjà, je pense qu'au lieu de cette correction qu'on trouve dans le manuscrit en question, j'opterais plus pour la correction que propose le Rav Baruch Epstein, il écrit dans Mekor Baruch, c'est Daf Shin Samer Hamoud Bet, en bas, il dit qu'à son avis, c'est une erreur qui s'est glissée dans le Harouch, mais beaucoup plus subtile. Au lieu de Beyad Dayine Israël, il y a une lettre qu'il faut changer, c'est une lettre qui ressemble énormément. Qu'est-ce qui ressemble plus à un nun d'imprimerie comme ça en lettres carrées? Le guimel. Dit Beyad Daïgé Israël. Daïgé Israël, c'est les pêcheurs, des pêcheurs juifs qui font la pêche, qui pêchent les poissons. Ils connaissent les poissons. Pourquoi parler de chasseurs? Parlons de pêcheurs. Et c'est ça le pshat, et c'est pour ça, donc, évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir des dayanim. N'importe quel juif fait l'affaire, mais pour peu qu'il soit au courant. Donc, il faut qu'il soit dayag, pas dayan, mais dayag, c'est-à-dire un pêcheur. C'est pour ça qu'on précise aussi Daïgé Israël, un pêcheur juif, parce que si c'est un pêcheur non juif qui ne mange pas kasher, il n'est pas Néhéman, il n'est pas cru. On parle que des juifs, parce qu'eux sont tenus de manger kasher, c'est pour ça qu'ils sont crus. Je referme la parenthèse. Donc qu'est-ce qu'on a vu là? Il y a un poisson barbouta, un petit peu étrange, et on nous dit il est kasher, mais il faut bien être sûr qu'il est vraiment, que ce soit le vrai barbouta, celui qui avait des écailles à l'origine. Néanmoins, dans les poskim, après, on voit que ce n'est pas si évident que ça, la cacheroute de ce poisson. Le Yam Shel Shlomo, dans Perek Elut Refot, dans Siman Kuf Raf Bet, Mashma plutôt là-bas les Essor, il pense qu'il est interdit de manger ce poisson-là. Le Pri Chadash, il l'interdit clairement aussi. Dans Yeredea Siman Pegimel, Pri Chadash, il dit ce poisson n'est pas cachère. Il y avait des écailles, moi j'y crois pas, je connais pas ces histoires, il n'y a pas d'écailles, c'est pas cachère. On sait sur Rabbi Yechiel de Paris aussi, c'est un Rishon, Rabbi Yechiel de Paris, il était marmir au moins pour lui de ne pas manger ce poisson. Il dit, moi je mange pas de ça. Il est cité dans le Maharsham, dans Chelek Dalet Siman Tzadik Dalet, pas manger ce poisson parce qu'il n'y a pas d'écailles, va savoir si lui il avait réellement des écailles dans la mer, etc. Je préfère ne pas manger. Il y a dans le Tiferet Israël, du Rav Israël Lifshitz, une histoire qui est racontée dans son commentaire sur la Mishnah, c'est dans Perek Bet de Avodah Zara, dans le Boaz Ot Gimel. Tiferet Israël dit qu'il y a eu, il y a 50-60 ans à peu près, de l'époque où il a écrit son livre, hein, Kamouvan, le Rav Tiferet Israël, il est mort en 1860. Donc là, on parle apparemment de quelque chose début 18e ou fin 17e, je ne sais pas. Il y a eu une histoire où Gadol Echad, un Gadol, un grand Rav, a voulu autoriser un poisson de ce type-là, un poisson qui n'a pas d'écailles, mais dont on dit qu'il a des écailles dans la mer. Un grand Rav a voulu l'autoriser, et tous les poskim de la génération, tous les rabbanim se sont opposés à lui, lui sont tombés dessus, ont dit « Oh, c'est assur, c'est assur, c'est assur ». Alors bon, il s'est fait tout petit, « Venishtakea ha'eter », et l'autorisation a été oubliée, et on n'en parle plus. Comme ça qu'il raconte. Alors, il ne dit pas qui c'est, il ne dévoile pas l'identité du rabbin, aller retrouver 200 ans après qui est-ce qui avait dit, etc., etc. Il ne dit pas qui est le rabbin, je pense qu'il ne veut pas le dire parce qu'il a le sentiment que c'est un petit peu un gnaï, c'est honteux, c'est du lachon hara. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de lachon hara, il n'y a pas de honte. Au contraire, il a tenu tête à tous les rabbinim de la génération parce qu'il pensait que c'était kasher. Il a dit ce qu'il pensait. On n'a pas fait la halakha comme lui à cette époque-là, d'accord. Mais en tout cas, il a dit ce qu'il pensait. Donc, il n'y a pas de honte à dire. Je pense qu'il aurait dû nous dire qui c'était et c'est dommage. Comme il ne l'a pas dit, alors j'ai cherché, je pense avoir trouvé qui est le rabbin. En fait, ce rabbin, il devait s'appeler Rabbi Isaac Epstein. Pourquoi? Parce qu'il y a dans un autre sefer, dans le Mekor Baruch, Dafshin Nuntet Amud Aleph, il raconte la même histoire sur la même époque et il nous donne le nom. Il dit c'est Rabbi Isaac Epstein qui a voulu autoriser, tous les rabbins sont opposés, donc Mishtakea Haeter. Donc on voit qu'il y a quand même des Mahmirim là-dessus. Il y a aussi dans le Shoot Yad Mordechai. Yad Mordechai, dans Siman Yutret, Yad Mordechai, c'est le Rav Mordechai Rotenberg, c'est le grand-père du Rav Rotenberg actuel de la rue Pavée. Il est mort à Auschwitz en 1944, il avait 72 ans. C'est le père donc de l'ancien Rav Rotenberg, le grand-père de l'actuel. Il écrit au sujet de ce barbouta, il dit que selon lui, le barbouta, c'est le turbo. Parlait un petit peu le français, ce Rav-là, il habitait ici, il est de Pologne, mais il a été rabbin à Anvers, Antwerpen. Et donc, il a dû entendre un petit peu de français aussi. Il n'y a pas que en français qu'on dit turbo. Et donc, il dit, je pense que ce poisson-là, c'est le turbo. Et ah, c'est cachère ou pas, justement, c'est la discussion. Ce n'est pas évident du tout. Et, peut-être, mais le Yad Mordechai, il l'interdisait. Il cite là-bas, il dit qu'il y a des minhagim, certains le mangent, certains ne le mangent pas. Voilà, au Maroc, on le mangeait apparemment. Il dit, certains le mangent, certains ne le mangent pas, ce poisson. Il dit, il y a des minhagim shonim. Étant donné qu'il n'a pas d'écailles quand il est sur l'étalage, alors on ne sait pas, on n'est pas sûr. Certains le mangent, d'autres non. Il cite beaucoup de poskim qui l'interdisent et il conclut, si c'est comme ça, Baal Nefesh Yahmir, Yimna Atzmo, celui qui tient à son âme, qui fasse attention et qui ne mange pas. Et encore dans la Gaot Hashiri, les annotations sur le roche d'Avodah Zarah, Perek Bet Siman Mem Aleph, il cite le Rashbam au nom de Rabbeinu Shlomo qui dit que ce poisson est autorisé, il est kasher. Néanmoins, Rabbi Yehuda Chassid, c'est un Rishon aussi, Rabbi Yehuda Chassid a dit que celui qui en mange ne mangera pas du Léviathan. C'est une manière de dire que c'est pas kasher. Et il cite une histoire, et c'est là l'histoire qui nous intéresse. Il dit une fois, Rabbeinu Ephraim, c'est Rabbeinu Ephraim de Regensburg, c'est un Baal à Tosafot. Il dit une fois, Rabbeinu Ephraim a autorisé ce poisson. Il a dit, ce poisson, c'était un élève de Rabbeinu Tam, donc c'est un peu normal. Il a dit comme son maître, il a dit, ce poisson est kasher. Et dans son rêve, on lui a dit que ce qu'il a autorisé, c'était des shratim. Shratim, ça veut dire des rampants, etc. Ce que tu as autorisé, c'est des vers de terre. Bref, on lui a dit, c'est pas kasher. Et donc, il a été chozerbo, il a changé d'avis, il a dit, oh, bah, oui, je reviens sur mon psak halakha, et finalement, c'est pas kasher. Ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte dans le Hagaot HaShéri. Il y a une autre version de cette histoire, c'est ça qui va nous intéresser, c'est ce qui est écrit dans le Sefer HaTrouma, et c'est aussi dans le Tashbetz Katan. Tashbetz Katan, c'est Siman Shin Nunbet. On ramène la même histoire sur Rabbeinu Ephraim, mais là-bas, on ne dit pas que Rabbeinu Ephraim a autorisé ce poisson. On dit que Rabbeinu Ephraim a consommé de ce poisson. Il a mangé de ce poisson-là, et après, pendant la nuit, il a rêvé de Eliyahu Hanavi qui vient le voir, un vieux rabbin avec une grande barbe blanche, et qui lui dit, lui tend une petite caisse avec plein de petits vermisseaux dedans, et des vers de terre, je ne sais quoi, il dit, tiens, mange. Et lui, dans son rêve, il lui dit, mais c'est des shratim, comment je peux manger ça? Ce que tu as mangé aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même péché. Tu n'as mangé pas kasher de la même manière. Et donc, il est affolé, évidemment, il se réveille affolé. Il change son psak, il fait un ta'anit pendant 2 jours, 48 heures de jeûne, pour se faire pardonner d'avoir mangé pas kasher. Et là vient la question, évidemment, on retombe sur notre question. Si on a une garantie que le tzaddik ne faute pas, alors on a répondu déjà à toutes les questions et on a dit que Tosfot répondait en expliquant que c'est uniquement une garantie de consommation interdite. Sur les péchés de consommation, il y a une garantie, pas sur le reste. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait que Rabbeinu Ephraim a consommé quelque chose de pas kasher? C'est pas normal. Là, Tosfot est d'accord que la garantie, pas de péché pour le tzaddik, garantie bon Dieu, pas de péché pour le tzaddik, n'est valide, n'est valable que pour les péchés de consommation. Et voilà pourtant, on a Rabbeinu Ephraim qui a commis un péché de consommation. Comment s'arranger avec ça? Alors, pour répondre à ça, on va préfacer avec une autre kushia, une grande kushia très connue, ça s'appelle Kushiat HaOlam. C'est une kushia, quand on appelle Kushiat HaOlam, c'est les questions que tout le monde pose. C'est une grande kushia sur ce Tosfot. Donc Tosfot, je vous rappelle ce qu'il disait, c'est que Rabbi Ishmael a pu commettre ce péché de pencher le verre à Shabbat, car ça n'est pas un péché de consommation. Alors il y a une kushia Taolam là-dessus qui demande la question suivante. Cette kushia, elle est attribuée à toutes sortes de personnes. Généralement, d'ailleurs, c'est des femmes qui la posent. C'est une kushia de femmes. Voilà. C'est une femme, vous allez voir quel type de femme. C'est des femmes qui ont vraiment des idées. Qui ont étudié le Talmud bien comme il faut. Le Kushiat HaOlam, dans beaucoup de Sfarim, on la voit attribuée à des femmes. Il y a un Sefer qui s'appelle Sichat Rulin chez le Talmidei Chachamim, Daf Yudbet. Il dit que celle qui a posé cette question, c'est la maman de Rabbi Akiva Eger. Donc on comprend pour le fils après. D'autres disent que celle qui a posé la question, elle s'appelait Beila, c'était la fille de Rabbi Tzekel Hamburger. D'autres disent encore, dans le Beit Aharon, Chelek Yud Alef, page Kuf Nuntet, il écrit que celle qui a posé la question, c'est la fille de Rabbi Yukel, qui était le Av Bet Din de la ville de Brot. Et encore dans le Yitav Panim Dafnun Vav, il est écrit que c'est Kushiat HaOlam. Et je pense que c'est lui qui a raison, parce que vraiment, ça a été posé par le monde entier, apparemment, cette question. S'il y a la mère de lui, la fille de lui, la femme de l'autre, tout le monde a posé cette question. Quelle est la question? La question, c'est comme ça. On a un Tosfot donc, qui a dit que les péchés, les tzadikim sont protégés des péchés par Dieu, mais uniquement des péchés de consommation. On a en parallèle un Harizal. Le Harizal est cité dans la Halakha par le Be'er Etev. Le Be'er Etev dans Orachaim au début de Siman Taf Mem Zayin, dans les lois de Pessah, dans la porte de Pessah. Le Harizal dit, Anizar mima she'u chametz be'Pessah, muftach lo she'lo yechta kol ha'shana. Celui qui fait attention à un petit peu de chametz, une micro-miette de chametz pendant Pessah, alors il a une garantie de ne pas fauter toute l'année. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. Fais bien attention au chametz, t'es garanti toute l'année. Et la question est la suivante. Vous savez c'est quoi le chametz? Interdit à Pessah de manger tout ce qui est levain, le pain, etc. On ne mange pas de tout ce qui est levé. Pas manger de pain ou d'autres céréales levées. Pas manger de chametz à Pessah. Celui qui fait bien attention, qui ne mange pas même une miette de chametz, pas un kazet, même une miette de chametz, ne mange rien de chametz à Pessah, il a une garantie du Harizal qu'il ne fera pas de péché durant toute l'année. Ok? À partir de là, si c'est comme ça, la question est la suivante. Alors, le chametz, c'est un issur achila. On est d'accord, c'est assourd de manger du chametz. Et on a dit que dans les péchés de consommation, il y a une garantie du bon Dieu. Pas celle du Harizal. Pour les tzadikim, il y a une garantie du bon Dieu, pas de péché de consommation. Donc je pose la question. Le fameux Shabbat où Rabbi Ishmael a transgressé Shabbat en bougeant le verre. Le Pessah d'avant, il a mangé ou pas du chametz? En principe, c'est un tzadik, donc il est protégé. Il n'a pas mangé de chametz. Puisqu'on nous dit que Tosfot a dit que la protection de Dieu pour tous les tzadikim, c'est sur les péchés de consommation. Le chametz en fait partie, donc il est protégé de chametz. S'il est protégé de chametz, donc il a la garantie, l'autre garantie, la garantie Arizal. Il y a garantie bon Dieu et garantie Arizal. Garantie bon Dieu, elle s'adresse à tous les tzadikim. Garantie Arizal, elle s'adresse à toute personne qui a fait attention au chametz. La garantie bon Dieu, elle garantit quoi? Que si tu ne manges pas, si tu es tzadik, tu ne mangeras pas, tu ne feras pas un péché de consommation. Le Harizal dit, je parle selon Tosfot toujours, on a dit que le Ramban pense au point, pour l'instant on est sur Tosfot. Le Harizal dit, si tu n'as pas fait le péché du Hametz, tu n'as pas mangé de Hametz, moi je te garantis que tu n'as aucun péché. Dès lors, puisque Rabbi Ishmael était un tzadik, on suppose, en tout cas Tosfot lui-même veut répondre ça quand il répond comment ça se fait qu'il a penché le verre, il dit c'est un tzadik, mais la protection de Dieu c'est que sur la consommation. Ok, mais il y a la protection Harizal, qu'est-ce que tu en fais? La protection Alpi Kabbalah, c'est que celui qui n'a pas fait de péché de chametz à Pessah, toute l'année qui suit, il ne va faire aucun péché. Même si ce n'est pas un péché de consommation. Aucun péché, c'est même pas transgresser Shabbat en bougeant le verre. Alors comment on s'arrange? Ça veut dire que ce que dit Tosfot pour répondre à la Kushia sur Rabbi Ishmael, ça marche, mais si on ne tient pas de ce qui est écrit dans le Ba'er Etev. Si on tient compte de ce qui est écrit dans le Ba'er Etev, le Tosfot ne marche plus. Comment s'arranger avec ça? Cette question, c'est Kushia Ta'olam, il y a beaucoup de réponses. Je vais citer d'abord 5 réponses. À partir de ces réponses, on va essayer de voir comment on peut répondre sur la Kushia sur Rabbeinu Ephraim. Comment on peut s'arranger avec Rabbeinu Ephraim qui a mangé son barbita. Après, on verra encore une 6e réponse, Blineder. Alors, les réponses pour ça, il y a d'abord une première réponse très simple qui consiste à dire que lorsque le Harizal dit que celui qui fait attention au Issur Hametz est garanti pas de péché durant toute l'année, il ne parle pas que du Issur Hametz de consommation. Hametz, c'est aussi interdit de balir et balimatsé, de possession. Et donc, Rabbi Ishmael, il est possible qu'il ait commis un péché de possession, puisque Tosfot a dit que la garantie pour les tzadikim, c'est qu'une garantie sur la consommation. Peut-être que Rabbi Ishmael, tout en étant tzadik, a fait un péché de possession de chametz. Dès lors, il n'avait plus la garantie du Harizal. Réponse très simple. Je pensais d'avoir pas chout l'ichora de répondre comme ça, mais j'ai vu que dans le Khatam Sofer, dans le Tshuvot Khatam Sofer, dans Chelek He, dans l'Hashmatot Siman Kuf Tzadik Vav, il écrit « Chametz Riyuvo Karet ». Le chametz, c'est chayav karet. Ve anizhar mimashu, celui qui fait attention même à une petite miette de chametz, nimlat mikol chet veavon kol hashana. Alors il est protégé de tout péché durant toute l'année. Qu'est-ce qu'on voit du Khatam Sofer? Qu'apparemment il a compris ce Harizal uniquement sur le péché de consommation de chametz, pas de possession. Parce que possession, il n'y a pas de chayav karet. Possession, c'est un lave. Chayav karet, c'est celui qui mange du chametz à Pessah, pas celui qui possède du chametz à Pessah. Donc apparemment, le Khatam Sofer ne pense pas comme ça. Mais en tout cas, ça nous fait déjà une première réponse de dire que ce dont parle le Harizal, c'est même le péché de consommation. C'est la réponse qu'on trouve. C'est la réponse du Rabbi de Munkach dans son Sefer Divrei Torah. Chelek Bet Siman Kuf Lamed Dalet. Il répond comme ça. C'est une très bonne réponse et tout va bien. Il y a une deuxième réponse. C'est que la promesse concerne uniquement celui qui fait attention à Chametz, Beta Arovet, Bema Sheu, Leachar HaPessah. C'est-à-dire quelque chose qui réellement n'est plus un issour. C'est une micromiette de chametz qui a été mélangée dans autre chose et il l'a mangée après Pessah, pas pendant Pessah. Pendant Pessah, c'est un problème. Mais après Pessah, une miette de chametz, c'est comme le chametz qui a appartenu à un juif pendant Pessah. Après Pessah, son interdit n'est que midrabanan. C'est une marloquette. Est-ce que c'est midrabanan et Torah? La halakha, c'est que c'est que midrabanan. Là, il s'agit d'une miette. Et en plus, une miette qui a été mélangée dans autre chose. Dans ce cas-là, il n'y a plus le issour. Donc il dit réellement, c'est la réponse, ça c'est du Yeitav Panim, Dafnevav, il répond comme ça, il dit d'après ça, c'est possible que Rabbi Ishmael, il a été Mirchal dans ce, entre guillemets, péché, mais ce n'est pas une Achilat Issour, c'est peut-être péché, mais ça ne s'appelle pas un péché de consommation, il n'a pas consommé quelque chose de pas cachère. Ça, c'est sa réponse à lui. Je n'aime pas tellement cette réponse parce que dans les mots du Harizal, tels qu'ils sont cités dans le Be'er Etev, ce n'est pas machma comme ça. Le Be'er Etev, il dit que Harizal disait à Nizham, Hametz, Be'Pessah, pendant Pessah, pas après Pessah, Betarobet, non, pendant Pessah. Et pendant Pessah, c'est assourd et c'est un problème de consommation. Donc, laissons cette réponse de côté. Une troisième réponse, c'est que lorsqu'il y a la garantie bon Dieu, qu'un tzaddik qui ne fera pas de péché, pas de péché pour un tzaddik selon Tosfot dans une consommation interdite, c'est uniquement une consommation, une achila. Qu'est-ce qui s'appelle une achila? C'est kazaït. En dessous de kazaït, ce n'est pas une achila. En dessous de kazaït, ça ne veut pas achila. Achila, dans la halakha, il faut manger au moins un kazaït, un petit chiour. Et donc, il est possible que Rabbi Shmuel, à Pessah, il ait mangé une petite miette de chametz, donc il n'a plus la garantie Arizal. Là-dessus, il n'y avait pas de garantie bon Dieu. Comme il a mangé une petite miette de Hametz, il n'a plus la deuxième garantie, celle du Harizal, et c'est pour ça qu'il a pu pencher son verre. C'est ce qui est écrit dans le Sifat Rolin Shel Talmidei Chachamim Daf Yud Bet, et le Avnei Nezer aussi répond comme ça. Une quatrième réponse, c'est, je pensais répondre d'après ce que dit Rav Nathan Lando dans son livre Ura Shachar, c'est dans Erech Aleph Ot Tzadik Aleph, où il propose de dire que la Haftara, la promesse du Harizal de ne pas fauter toute l'année, c'est uniquement de ne pas fauter Be'achilat Issour. Il fait ce que fait Tosfot sur la promesse de la Gemara, il le met sur la promesse du Harizal aussi. Que celui qui n'a pas de Hametz pendant Pessah, ne mange pas de Hametz pendant Pessah, durant toute l'année, il ne va pas faire de consommation interdite non plus. Et d'après ça, donc, ça répond au problème de Rabbi Ishmael, qu'en effet, il a penché le verre parce que la garantie du Harizal, elle aussi, ne couvre que les interdits de consommation et pas le Chiloul Shabbat. Et la cinquième réponse. C'est que même si on a une garantie pour une personne, je te garantis que tu ne vas pas fauter. Tu ne manges pas de Hametz pendant Pessah, le Harizal te dit que tu ne feras aucune avéra toute l'année. Cette garantie, ce n'est pas de la magie. Cette garantie ne va pas retirer à la personne sa béchira. Elle ne va pas lui retirer son libre arbitre. S'il choisit de faire une avéra, c'est sûr qu'il pourra. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé de Hametz qu'il sera coincé. Celui qui veut faire une avéra, il peut. Quand on te dit, on te garantit de ne pas faire de avéra, c'est une avéra béchogeg, une avéra où on ne peut rien te reprocher, tu n'as pas fait exprès. Or, ici, Rabbi Ishmael, quand il a fauté, je ne dis pas qu'il a fait exprès, mais il a commis une pshia, il a commis une négligence. Il n'a pas voulu écouter les chachamim, il savait que les chachamim avaient dit, vous vous rappelez, Raymond dit, il ne faut pas lire les oraner. Lui, il a dit, oh, c'est bon, moi je connais le ta'am, c'est bon, moi ça ne me concerne pas. Ça, c'était une pshia, il y avait une négligence déjà. Donc, dès lors, il n'y a plus la promesse. Et avec ça, on gagne. À Emet, c'est qu'on peut répondre avec ça, même la kushia de Tosfot. C'est d'ailleurs la réponse que donnent le Ran et le Ramban. Le Ran dans Chulin d'Avzain Amudalef et le Ramban dans Chulin d'Avré Amudbet se pose la même question que Tosfot. On avait dit alors que le Ramban refusait la différence, le chilou que faisait le Tosfot, on disait que c'est uniquement la consommation. Et il dit que la protection pour les tzadikim, c'est sur toutes les avérotes. Mais encore faut-il que le tzadik en question ne cherche pas à faire la avéra. Encore faut-il qu'il soit clean. S'il a commis une négligence, il n'a pas fait ce que les chachamim conseillent, il ne faut pas s'étonner. Ça, c'est les cinq réponses qu'on peut donner sur cette kushiat à olam concernant ce que dit le Harizal à Pessah. D'après ça, la troisième et la cinquième réponse, donc la réponse du kazaït, ainsi que la réponse de la bechira du libre-arbitre, ces deux réponses-là, peuvent répondre aussi à notre problème de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'on avait dans Rabbi Ishmael? Pas de Rabbi Ishmael, pardon, de Rabbeinu Ephraim. Dans Rabbeinu Ephraim, on avait le problème que d'après la girsa du Tashbet de Sefer HaTrouma, Rabbeinu Ephraim a mangé quelque chose de pas cachère. Il a mangé de ce poisson interdit. Comment c'est possible qu'il ait mangé du poisson interdit? Eh bien, premièrement, on peut dire, comme la réponse numéro 3, que c'est un problème de kazaït ou non kazaït. Et il est possible qu'il ait consommé moins d'un kazaït. Il a mangé un petit peu, mais moins d'un kazaït. Et donc, dans ce cas-là, comme il a mangé moins d'un kazaït de barbouta, de ce poisson interdit, en effet, il n'y a pas de protection. La protection dont parle le Tosfot, dont parle l'Agmara, que Dieu protège le tzaddik de tout péché de consommation, c'est uniquement un péché de consommation, consommation égale kazaït. Il n'y a pas kazaït, c'est possible. Ou bien, comme la cinquième réponse. C'est quoi la cinquième réponse? C'est l'histoire du libre-arbitre. Ce n'est pas parce que tu as une promesse que ça y est. On avait dit ça par rapport à la garantie Arizal. On peut l'appliquer aussi pour la garantie bon Dieu. Quand on a la garantie bon Dieu, que le tzaddik a une garantie qu'il ne va pas faire de péché, c'est si tu fais attention. Comme on a dit pour le Ran et le Ramban sur Rabbi Ishmael, fais attention, si tu n'écoutes pas les Chachamim, évidemment tu fais des péchés après. Donc pareil ici aussi, pourquoi? Parce que Rabbeinu Ephraim, on nous raconte dans l'histoire qu'après avoir rêvé que ce n'était pas kasher, il a changé son psak halakha. Je vous demande, s'il avait rêvé que le vin, c'est pas kasher, le lendemain, il aurait décidé que le vin n'est pas kasher? Allons donc. Soit il se serait dit, j'ai rêvé n'importe quoi. Soit il se serait dit, le vin que moi j'ai bu, il avait un problème. Mais ce n'est pas que le vin lui-même n'est pas kasher. C'est absurde. S'il était certain de la cacheroute de ce poisson, il n'aurait pas changé d'avis avec son rêve. S'il a changé d'avis avec son rêve, c'est qu'apparemment, il s'est autorisé la consommation du poisson sans être vraiment certain à 100%. Il était certain à 99%. Il a laissé une petite faille, il n'était pas sûr de lui. S'il avait été sûr de lui, alors comment ça se fait qu'avec un rêve, il change d'avis? Si pour lui, c'était clair que c'est cachère, de la même manière que le vin est cachère, il n'aurait pas changé d'avis. Alors il aurait dit, dans ce poisson-là, il y avait un problème. Alors lui, ce n'était pas un barboutage, je croyais que c'était autre chose, etc. S'il a changé d'avis, c'est qu'il y a une petite tana, une petite tvia contre lui. C'est encore une fois la même idée comme Rabbi Ishmael. T'as pas été clean à 100%. Dès lors, en effet, il n'a plus la protection et là, c'est possible. Donc ça, c'est une nouvelle possibilité de répondre pour Rabbeinu Ephraim. On peut répondre encore d'une autre manière, en disant, même si Rabbeinu Ephraim a changé d'avis, mais qui dit qu'il a raison quand il a changé d'avis? C'est le rêve qui dit ça. Qui dit que le rêve a raison? Depuis quand on voit qu'on est possèque halakha alpi un chalom, avec un rêve? On ne peut pas décider d'une halakha avec un rêve. Ça n'existe pas, ces histoires-là. C'est quoi ces manières? Lo bashamayim hi, dit le passouk. On fait pas, on décide pas. La Gemara, même dans Bavitsia Dafnuntet, dit que c'est halachique ce concept. Lo bashamayim hi. Quand on a un dévoilement céleste sur une halakha, on n'en tient pas compte. Et le passouk dit Lo bashamayim hi. Un autre passouk dit Chalomot Hashav Yedaberu dans Zecharia Perekyud. On ne fait pas confiance à un rêve. Un rêve, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de valeur. La Gemara dans Brachot Nenehem ou de Bet Essit, ce passouk aussi concernant les rêves. La Gemara dit de manière générale Divrei Chalomot Lo Ma'alim Velo Moridim. Ce que tu as rêvé, ce dont tu as rêvé, une information halakhique dans un rêve, loma alim velo moedim. Ni ça monte, ni ça descend, ça veut dire ça nous fait ni chaud ni froid, ça change rien. C'est écrit dans la Gemara, dans Rayot Yud Gimel, dans Gittin Dafnun Bet, dans Sanhedrin Daf Lamed, que divrei chalomot n'a pas de valeur. Et plus que ça encore, la Gemara elle dit dans Brachot Nehamud Bet, Ein mar'in lo la'adam, elam hirhure libo. Un rêve en fait, eh ben, il est constitué de toutes sortes de pensées que la personne a eues durant la journée, consciemment ou inconsciemment ou subconsciemment ou tout ce que vous voulez, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai un rêve et on ne peut pas se baser dessus. Donc Birlal, c'est étrange. Qu'est-ce que Rabbeinu Ephraim, il s'est basé sur ce rêve. Et c'est pas parce que lui, il s'est basé sur le rêve que nous, on a la garantie ou on a la halakha que le poisson en question n'est pas kasher. Donc en fait, il est possible que le poisson qu'il ait mangé était réellement kasher. Lui, il a pensé que non. Ok. Il y a eu le Noda Biyuda a autorisé le Rav Yecheskel Lando, ça c'est beaucoup plus récent, c'est il y a 200 et quelques années, il a autorisé un poisson de ce style-là aussi, le turbo ou je ne sais pas lequel, un poisson qui perd ses écailles. Et il y a un Rav qui s'est opposé à lui. Il dit, comment tu peux autoriser ce poisson? Si tu as raison que ce poisson est cachère, alors pourquoi le Baal HaChalom est venu visiter Rabbeinu Ephraim? Pourquoi l'ange des rêves est venu gronder Rabbeinu Ephraim qui a mangé ce poisson-là? C'est la preuve, c'est pas cachère. Sinon, pourquoi cet ange s'est déplacé et est allé voir Rabbeinu Ephraim? Alors, le fils du Nodab Yuda, il lui répond, Rav Shmuel Lando, dans le Nodab Yuda Tignana, dans le deuxième tome du Nodab Yuda, il y a des réponses du fils aussi, pas que du père. C'est dans Chelek Yoredea Siman Lamed. Il lui répond et il lui dit, d'abord, Divrei Chalomot, lo ma'alim velo moredim, ne commence pas à me prendre la tête avec des rêves, qu'un rêve a dit que c'est pas cachère. Il dit, on n'est pas possèque halakha alpi un rêve. Ah, et Rabbeinu Ephraim a fait confiance à son rêve. Rabbeinu Ephraim, c'est différent. C'est un tzaddik et un chassid gadol. Lui, il peut se permettre d'être rochesh un de ses rêves, ça le concerne. Mais nous, on n'a pas à faire la halakha selon les rêves. Et il lui ajoute après un petit pic et il lui dit, et d'après toi qui me reproche pourquoi le malach du rêve est allé visiter Rabbeinu Ephraim, moi je te demande, pourquoi le malach du rêve n'est pas allé voir Rabbeinu Tam et tous les autres rishonim qui autorisaient? Alors arrête de me casser la tête avec les histoires de rêves, et ce poisson est kasher. D'après ça, alors, on répond à notre question aussi. Comment Rabbeinu Ephraim, il a pu consommer quelque chose de pas cachère? Non, c'est cachère. Le poisson est cachère. Ah, mais alors pourquoi le rêve, etc. Je ne sais pas. Lui, il devait être recherche ce rêve-là. Peut-être, Béhémet, qu'il y avait un problème dans ce poisson. Il a mangé le poisson avec ce qu'il y avait dedans et dans ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un problème. Il a été cuit comme il ne fallait pas. Il y a une cuisson bichoulakoum. Je ne sais pas. Peut-être ce poisson qu'il a mangé était interdit. Mais ce n'est pas que le poisson en lui-même était interdit, même si Rabbeinu Ephraim l'a pensé. On voit que la halakha, on n'est pas contraint de suivre cette chita puisque le Noda Biyuda ne suivait pas cette halakha. Avec ça, on a répondu donc de différentes manières à Rabbeinu Ephraim. Tout se passe bien, on est satisfait, on n'a plus peur, tout va bien. Maintenant, une sixième réponse sur la Kushiyat HaOlam de tout à l'heure à partir du Harizal concernant les Hilchot Pessah. À partir de là, on va arriver au sujet d'aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas encore commencé, c'était la préface, tout ça. Je rappelle la Kushiyat HaOlam. Quelle était cette Kushiyat HaOlam? Donc, c'est une Kushiyat, on avait dit féminine, une Kushiyat de telle femme ou de telle femme ou de telle femme. En tout cas, c'est toutes les femmes qui posent cette question-là. On demandait, il y a la garantie Arizal, il y a la garantie bon Dieu. Garantie bon Dieu, elle concerne tous les tzadikim, mais elle ne couvre que sur les péchés de consommation. Garantie Arizal, ça couvre sur tous les péchés, mais elle concerne, pas d'afka les tzadikim, mais ceux qui ont fait attention au Hametz pendant Pessah. Kushiyat HaOlam, c'était que si Rabbi Ishmael, étant tzadik, il a une garantie de ne pas manger de Hametz, même sans faire exprès pendant Pessah, dès lors, il devrait bénéficier aussi de la garantie Arizal et de ne pas commettre un péché, même si ce n'est pas un péché de consommation, durant l'année. Alors, comment ça se fait qu'il a penché le verre? Ça, c'était la Kushiyat HaOlam. Là-dessus, il y a une réponse qu'on trouve dans le Shoel Umeshiv, le Rav Nathan Zon, Shoel Umeshiv dans Mahadura Tinyana Chelek Gimel Siman Yud Aleph. Shoel Umeshiv répond avec un chilouk très simple et très vrai. Il dit, le Hametz, c'est pas une achilat issour. Tosfot a dit que le tzadik est protégé des péchés de consommation. Et nous, naïvement, on s'est dit, ben, le Hametz, celui qui mange du Hametz, c'est un péché de consommation. Il dit le Shoel Umeshiv, non. Ce n'est pas un péché de consommation. Le Hametz, c'est kasher. C'est kasher à un moment interdit. Pendant cette semaine, tu n'as pas le droit de manger cet aliment kasher. Mais ce n'est pas un péché de consommation. Quand on parle de péché de consommation, c'est manger un poisson interdit, une viande interdite, un oiseau interdit, manger un ma'achalot asurot, manger du jambon, ça, ce n'est pas kasher. Mais manger du Hametz, le pain, c'est kasher. La preuve, on en mange toute l'année. C'est juste qu'à Pessah, c'est interdit. Dit ça, ça s'appelle un aliment kasher. À un moment pas cachère, à un moment interdit. Mais l'aliment lui-même est cachère et là-dessus, il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire, c'est une nouvelle subtilité dans ce qu'on dit. Quand on a expliqué, le Tosfot répondait à Rabbi Ishmael que la garantie du bon Dieu, que le tzadik ne fera pas de péché, il a dit c'est uniquement ne fera pas de péché de consommation. Eh bien, on restreint encore plus et on dit attention, pas tout péché de consommation. Les péchés de consommation, quand l'aliment lui-même est problématique. Pas quand c'est interdit par rapport à la période dans l'année ou par rapport à l'heure ou par rapport à autre chose au calendrier. Cette réponse, en fait, elle apparaît déjà dans Tosfot. Sur Tosfot, il se pose la question aussi par rapport à une autre Gemara où on voit, on a cité tout à l'heure Tosfot aussi dans Maserhet Psachim Davkouf Vav. Là-bas, on voit qu'il y a un rabbin, Rabbi Irmiya Baraba, qui a consommé avant la Havdala. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger avant la Havdala. Ceux qui mangent avant la Havdala, oi va voi, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dessus, Askara, etc., toutes sortes de choses, Hachem Yatsilenu. Il ne faut pas manger avant la Havdala. Motsei Shabbat, on a fait Arvit, on rentre à la maison, assure de manger tant qu'on n'a pas fait Havdala. On peut faire Havdala le lendemain ou le surlendemain, mais en jeûnant. C'est ce qu'on fait à Tisha B'Av. Quand il y a Shabbat qui tombe le 8 Av, ou le 9 et que c'est décalé, et on a le dimanche, c'est le jeûne de Tisha B'Av. Le jeûne de Tisha B'Av, il commence à la nuit. Ouais. On ne fait pas Avdala. Ou bien on a Yom Kippour qui viendrait juste après Shabbat. Ça existe, ça? Non, ça n'existe pas. Hein. Voilà, donc on ne l'a pas. Mais Tisha B'Av, ça existe? Oui, bien sûr que ça existe. Bien comme il faut, ça existe. Ça peut tomber dimanche, voire même Shabbat, et il est décalé. Quand on a une Avdala qu'on ne peut pas faire, c'est Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas boire le jus de raisin en plein Tisha B'Av, ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben, on repose et on fait après, à la fin de Tisha B'Av. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Il n'y a pas le choix. Dans ce cas-là, on peut. Mais pourtant, c'est assour de manger tant qu'on n'a pas fait Avdala. Oui, c'est aussi assour de manger pendant Tisha B'Av. Et donc, pas de problème. Mais tant qu'on ne mange pas, on peut faire Avdala encore après. Quelqu'un ne peut pas faire samedi soir. Il veut faire dimanche, il veut faire lundi, il peut. Jusqu'à mercredi exclu. Dimanche, lundi, mardi, on a 3 jours pour faire Avdala si on ne mange pas. Si on n'a pas mangé pendant plus de 3 jours, ça devient embêtant après. Donc là-bas aussi, il a commis ce péché, ce rabbin. Il a mangé avant Avdala et c'est gravissime. Mais encore une fois, ce n'est pas un péché de consommation. Ce n'est pas qu'il a du jambon dans le ventre. Ce n'est pas qu'il a consommé du pas kasher. Il a mangé quelque chose de kasher à un moment interdit. Et ça, c'est différent. On a aussi une gemara dans Rosh Hashanah, Rafal et Fabudal. Il y a plein de rabbins qui ont mangé à Yom Kippour. Ils se sont trompés. En Bavel, ils ne savaient pas qu'il y avait eu le hibour de Chodesh Elul. Et donc, il y a eu une erreur sur Yom Kippour. Ils ont mangé en plein Yom Kippour. Comment c'est possible, tzadikim? Qu'est-ce qu'on fait avec les tzadikim? Ils ont mangé à Yom Kippour? Oui, les choux, ils ont mangé kasher. Là-dessus, il n'y a pas de garantie. Pour comprendre comment ça marche, oui.
le fait qu'on parle de achila et pas de kashrout, ça ne veut pas dire que justement ça inclut le hametz.
Alors justement, c'est ce que je voulais dire à présent, très bonne question, c'est qu'il faut comprendre cette idée-là, pourquoi c'est spécifiquement une consommation pas cachère. En principe, on parle de achila, pas de kashrout, n'est-ce pas? Alors pourquoi c'est spécifiquement une achila non kashera, ma'achalot asurot? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ma'achalot asurot, plus qu'une consommation? C'est une question encore? Ça ne peut pas attendre? Non, ok, j'écoute. Ah, oui. Bon, bah, c'est Red Rosh Hashanah, d'affraper. Oui, en effet, ça existe. Une seconde. Là-bas, quelle est la question? Par rapport à un problème de consommation, il a jeûné. Oui, c'est pas dans cette gemara là-bas. C'est Khaf Alef, c'est plus haut. C'est parce qu'il y a eu une erreur en Bavel, il ne savait pas qu'il y a eu le hibour de Elul.
Ah, ils
n'ont
pas fait
une mauvaise zéra. Non, pas une zéra. Quand là-bas, il y avait une marloquette. Entre Rabbi Gamliel et Rabbi Yehoshua, à quelle date devait tomber Yom Kippour? Est-ce qu'on fait ou pas? Et donc, est-ce que ça tombe là ou là? Rabbi Yehoshua, il a dit, moi je pense comme ça. Rabbi Gamliel, moi je pense comme ça. Rabbi Gamliel a dit, écoute, c'est moi le Nassi. Si tu m'écoutes pas, ça va être la pagaille dans le Klal Yisrael. Rabbi Yehoshua a dit, oh, je t'écoute. Moi je ferai pas. Voilà, je fais Yom Kippour comme toi. Et pour lui prouver, il est venu chez lui. Selon son propre Yom Kippour, le Yom Kippour de Rabbi Yehoshua, il est venu avec son maquel, avec sa bourse, etc., montrer, voilà, je ne fais pas Yom Kippour parce que tu l'as dit. Je te montre clairement parce qu'il faut être Nirna au Psak et c'est toi le grand rabbin, donc on te suit pour qu'il y ait la pagaille. Ça, c'est une chose. Il y a eu plus haut, quatre tapis avant, on nous raconte qu'en Israël, ils avaient fait le hibour du mois de Elul. Et par conséquent, vous savez, Elul, il peut durer 29 jours, de nos jours, non, mais à l'époque, oui, de nos jours ou 30. Et donc, ça décalait d'un jour. Donc, ils se sont trompés. Ils pensaient que c'était Yom Kippour. Et ce n'était pas Yom Kippour, c'était la veille de Yom Kippour. Okay? Ils se sont trompés. Il y a eu un décalage d'un jour. Donc, après, le lendemain de Yom Kippour, bah, ils ont mangé. Et en fait, c'était Yom Kippour, ils ne savaient pas. Voilà, donc on voit cette idée-là. Maintenant, comment comprendre? Quelle est la svara là-dedans? Pourquoi il y a une particularité? Pourquoi Tosfot il nous dit que le Issour, comment ça se fait d'abord qu'on vient restreindre? Quand la Gemara dit qu'Akodesh Baruch Hu n'entraîne pas de Takala ou de Tzadikim, apparemment, c'est tout Avera. Pourquoi Dafka, les Averot de consommation et de consommation pas cachère, etc. Alors il y a dans le Netziv, dans Meromé Sadeh, sur Khulin Dafhea Moudbet, et en fait il a été devancé par le Rachaim Akadosh déjà dans Vaikra 11-10, il dit qu'il y a un gnaï particulier dans la Achilat Issour. Pas seulement parce que ça rentre dans son corps. Ça, déjà, on peut comprendre ce qu'on avait déjà compris, que la consommation, c'est qu'après, le pas cachère, il est là dans ton ventre. Tu as du jambon dans le ventre, c'est embêtant, ça fait partie de toi. Mais c'est pire que ça. C'est pas seulement parce que ça rentre dans ton corps, parce qu'à ce compte-là, même manger à Yom Kippour, ça rentre dans ton corps et c'est embêtant, mais c'est parce que les ma'achalot asurot metam temim libo shel adam. Et oui, c'est encore autre chose. La Gemara dans Yuma, d'aflamet tet, amoudbet, fait une dracha sur venit metem bam, c'est écrit venit metem sans le aleph. Altikre venit metem et la venit tamtem, etc. Que les ma'achalot à asurot metam temim libo shel adam. Ça veut dire quoi? Littéralement, ça bouche le cœur de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie que cela bouche le cœur de l'homme? C'est une notion spirituelle, vraisemblablement. Hein, ça bouche les artères de la neshama. Mashiukazi. Le cholestérol pour le gashmi et pour le ruchani, c'est les ma'achalot à asurot. Tu manges du jambon, ça te bouche les artères de la neshama et tu n'es plus tellement connecté. On verra plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. C'est une grande marloquette. Par conséquent, on peut comprendre pourquoi c'est uniquement une consommation interdite, pas une consommation autorisée à un moment interdit. Celui qui a mangé avant Avdallah, il n'y a pas de timtoum à lèvres. Il n'y a pas le timtoum, ça ne bouche pas la neshama dans ces cas-là. Il a mangé quelque chose de cachère, sauf que c'était à un moment où il ne fallait pas manger. Voilà la différence. Ce qu'il y a, et voilà, j'arrive enfin au sujet, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est contraire, apparemment, à ce que dit le Maharal. Le Maharal de Prague, dans Tiferet Israël Perekret, le Maharal de Prague parle de cette idée du péché de consommation qui est metamtem libo shel adam, qui bouche le cœur. Et il dit, certains se trompent, yesh to'im, des gens sont dans l'erreur. Et ces gens, c'est des rabbins. Il y a des rabbins qui se trompent et qui pensent que le timtum halev est à l'origine du issour. Il dit, mais c'est faux. C'est le issour qui est à l'origine du timtum. C'est-à-dire, il faut considérer une chakira, il faut comprendre. La Gemara nous dit, tu manges du jambon, ça te bouche le cœur. Ok? Vous comprenez quand je dis ça te bouche le cœur, ça veut dire ce tintou malève en question. Tu manges du jambon, ça te bouche le cœur. Bon, la question est la suivante. Est-ce que c'est parce que la texture même de cette viande est de nature à boucher le cœur, et c'est pour ça que Dieu a interdit cette viande, ou bien non? C'est la texture, la viande de porc, aucun problème en soi, le jambon lui-même, il n'y a aucun problème. Seulement, comme ça a été interdit pour une raison qui nous est inconnue, comme ça a été interdit par Dieu, alors c'est metamtem libo. C'est-à-dire, en fait, la hakira est de savoir, est-ce que c'est l'interdit qui entraîne le timtum, le fait que le cœur soit bouché après, ou bien c'est le timtum qui entraîne l'interdit? Qu'est-ce qui devance l'autre? Est-ce que c'est parce que ça a été interdit qu'on nous dit « Ah, t'as fait une avéra, alors tu auras du timtum à lèvres » ou bien non? C'est naturellement, le jambon, c'est quelque chose qui va t'abîmer la neshama, ça abîme ton corps, alors Dieu te l'a interdit, ce jambon. Okay? Il y a deux manières de comprendre. Maïnafkamina, des tas de nafkaminot, incidence pratique, par exemple, quelqu'un qui aurait consommé du jambon, béhonès, on le menace, mange cette tranche de jambon ou je te tue. Qu'est-ce que la halakha dit dans ce cas-là? Il faut manger, il ne faut pas mourir, n'est-ce pas? Donc il n'a pas la avéra de manger. Oui, mais si on dit que la texture même de cette viande est de nature à te boucher la neshama, eh ben c'est ce qui va se passer quand même. C'est ce qu'il faut faire, mais malheureusement, tu vas être bouché après. Il n'y a pas le choix, on ne peut rien faire d'autre. Mais si on dit que ça dépend de la avéra, puisque dans ce cas-là, comme j'ai été menacé de mort, il n'y a pas de avéra, au contraire, il y a une mitzvah de manger ce jambon, alors il n'y aura pas. Une autre nafkamina, c'est pour un petit enfant, un petit bébé qui n'a pas la mitzvah, il n'a pas la avéra. Est-ce qu'il peut manger du jambon? Il y a un bébé qui mange du jambon. Est-ce que lui, s'il mange du jambon, il aura timtum à lèvres ou pas? Ben, ça dépend. Si on dit que ça dépend de la avéra, le bébé n'a pas la avéra, donc il n'y a pas de timtum. Si on dit que c'est lié à la viande elle-même, oui, il l'aura, il n'y a rien à faire. Pareil aussi, notre nafkamina, un goy. Un goy n'a pas la avéra de manger du jambon, il a le droit. S'il n'est pas juif, c'est moutard pour lui de manger du jambon. Il y a les sheva mitzvot, il n'y a pas le jambon dans les sheva mitzvot. Donc il peut manger de la viande pakshera. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un timtum chez ce goy ou pas? Ça dépend. Si on dit que ça dépend de la avéra, non. Si on dit que c'est lié à la viande elle-même, oui. Bref, il y a plein d'incidences pratiques là-dessus. Et le Maharal dit là-dessus que les gens qui pensent que c'est la viande elle-même qui est problématique se trompent. La viande n'est pas problématique. C'est que parce que c'est péché qu'il y a un timtum. C'est pas parce qu'il y a un timtum que c'est péché. Ça commence par le péché. Après, comme c'est péché et tu l'as transgressé, alors il y a timtum à lèvres. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Il se trouve qu'il est suivi par quelques acharonim dans cette idée, sans le mentionner, bien entendu. Mais des acharonim, j'ai trouvé quelques acharonim qui pensent comme lui. Il y a le Ri'af, Rabbi Yoshiaou Pinto, dans le Ein Yaakov, dans Yoma Daflamet Tet. Il demande comment ça se fait qu'on apprend de Venif Metembam. On apprend ça pour tous les Maharalot Asurot. Pourtant, le pasouk là-bas, il ne parle uniquement des Shratzim. Comment tu élargis ça au jambon? C'est pas un Shéretz, le jambon. Ça, c'est vrai quand tu manges un cafard, mais qui a dit quand tu manges du jambon, c'est le cas aussi? Qui t'a dit ça? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il répond le Rabbi Yoshiaou Pinto? Il dit, en fait, c'est parce que ce qui est metamtem libo, c'est pas la texture de la viande, c'est le péché qui est metamtem libo. On voit comme le Maharal. Il y a le Messilat Yesharim aussi, dans Perek 11, page Nun Aleph, dans l'ancienne édition, il dit, Avera metamtemet libo chez la dame, c'est le péché lui-même qui est metamtem, c'est pas la texture de la viande. Le Rav Yonatan Aibeshitz aussi, dans Keshet Yehonatan, dans l'édition de Pietrekov 1914, c'est Daf Yudzayin Amud Gimel. Lui, c'est intéressant parce qu'il cite la Hakira. Il présente les deux possibilités. Il dit soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Mais il dit, selon lui, comme le Maharal, que c'est le péché qui entraîne. Il y a peut-être même chez les Rishonim un petit peu un remez à ça. C'est difficile à trouver, mais dans le Ritva, il y a un Ritva qui se répète dans plusieurs endroits. Le Ritva. Plusieurs endroits dans le chasse, dans Kiddushin Daf Nun Dalet Amud Alef, dans Jvuot Raf Bet Amud Bet, et aussi dans le Ritva autour du Rif, dans Nedarim au début du Perek Bet. Il dit que le chazir, ça veut dire donc le jambon, c'est un issur gavra, pas un issur reftsa. Je ne sais pas si vous connaissez cette subtilité, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est un interdit sur l'homme, pas sur l'objet. Ce n'est pas que le jambon lui-même est un interdit. C'est que le juif a un interdit de manger du jambon. Le jambon lui-même n'est pas un interdit. Bon, c'est une notion un peu abstraite. En fait, il y a une incidence par rapport à d'autres halakhot. Est-ce que je sais, moi, par rapport à savoir est-ce que enissour halal issour, est-ce qu'il faut considérer que l'objet lui-même est assour? Laissons ça de côté, mais il semblerait que l'on puisse déduire de ce ritva qu'il pense comme le Maharal. Et à ce compte-là, on pourrait dire la même chose du rivash. Le rivash dans Siman Tzadikret dit plus ou moins la même chose, même sur Nevela et Trefa, c'est ce qui est étrange. Il dit que ce n'est pas un issur heftsa, c'est un issur gavra à la heftsa. C'est un interdit sur l'homme de manger cet objet-là. Mais pas que l'objet lui-même est un objet problématique. Il dit ça sur Nevela. Il dit la Torah, elle n'a pas dit Nevela asura. La Torah, elle a dit l'otochal Nevela. Elle n'a pas dit la Nevela est interdite. C'est toi, tu n'as pas le droit de manger la Nevela. Bon, je laisse ça de côté parce que c'est subtil et ça prendrait beaucoup de temps maintenant d'entrer là-dedans. Un autre acharon aussi qui pense comme le Maharal, c'est le Taz, et non des moindres. Le Taz, Torezaav, dans Yeredea Siman Kufut Betir Katan Tet, dit que lorsqu'il y a un aliment pas cachère, qui devient cachère. Vous connaissez ces situations? Bitul Beshishim, ça a été annulé dans 60. Oui. Dans les cas où il y a Bitul Beshishim, quand ça devient autorisé de le manger, dans ce cas-là, dit le Taz, il n'y aura pas de Timtum Alef. Il n'y aura pas le Timtum. Pourquoi? Si c'est la texture, tu as quand même mangé du cochon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, c'est comme ça. Apparemment, lui aussi, il pense comme le Maharal, bien qu'on puisse le repousser par une svara du Ran qu'on dira tout à l'heure, mais bon, en tout cas, Nira comme ça. Donc, on a ici quelques acharonim. On a cité quatre acharonim qui pensent comme le Maharal sur ce point. Néanmoins, quand le Maharal dit qu'il y a des torim, des gens qui se trompent, on s'attend à ce que ce soit des moins que rien. J'ai cherché un petit peu comme ça dans le chasse et ailleurs dans les sfarim, voir qui sont ces tohim, et j'en ai trouvé plus que 30. Et parmi eux, une bonne moitié de rishonim. Et là, c'est inquiétant. Ça fait beaucoup de tohim et c'est un petit peu embêtant pour le Maharal, qui est un acharon, de venir à l'encontre de tous ces rishonim et encore beaucoup de acharonim. Je vous en cite quelques-uns. Le Rambam, Rambam dans Moreh Nevuchim, Chelek Gimel, Perek Memchet, il dit que les simané, kashrout sur un animal, sabot fendu, etc., ce n'est pas ça qui entraîne le issour ou le éther. C'est qu'un signe distinctif qui permet de distinguer entre hamin hameshubach ve hamin hagaroua, une viande qui va être bonne, qui va être mauvaise pour nous. C'est-à-dire qu'il y a apparemment une incidence de la viande elle-même. Il écrit encore là-bas que le chélev, la graisse interdite par la Torah, c'est mazik pour le corps. Ça endommage le corps, ça crée un ézek. Il y a quelque chose, il y a un problème. Donc ce n'est pas une histoire de religion pure. Non, il y a un problème. Tu manges ça, tu auras un problème. Il écrit aussi dans les Shmoné Prakim, dans Perek Dalet, il dit que la majeure partie des mitzvot nous enseigne comment se comporter et comment entraîner nos kochot anefesh dans une bonne voie. Et là-bas, c'est machma que le issur achila, quand on mange quelque chose de pas kasher, ça va entraîner chez l'homme des mauvaises midot. Tu manges du cochon, tu vas te comporter comme un cochon, etc., etc. Donc on voit bien que selon lui, il y a une influence directe liée à la viande. Il y a aussi le Ibn Ezra. Ibn Ezra dans Vayikra 19-23, il dit que celui qui mange un poisson pas cachère, comme le fameux barbouta, selon ceux qui disent que c'est pas cachère, celui qui mange un poisson pas cachère, il dit c'est mazik la gouffe. C'est mauvais pour la santé, ça va abîmer le corps. On va revenir sur la question à laquelle vous pensez déjà, ou vous allez y penser dans 2 minutes. On va y revenir. Il dit par contre, celui qui mange une behema ou off, un animal comme ça, pas cachère, ou bien un volatile, la volaille pas cachère, là c'est mazik le nefesh. Différence. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme ça, il dit ça, c'est mazik le nefesh. Il dit c'est mazik le nefesh achachama. Celui qui est idiot, apparemment, il ne craint rien. Le Ramban, Nachmanide, dans Shemot 22-30, écrit que le timtum, c'est lui. On voit dans le Ramban qu'il y a un timtum dans la viande et c'est pour ça qu'elle a été interdite. Donc on ne voit bien pas comme le Maharal. À l'origine, il y a le timtum. C'est-à-dire que la texture même de la viande entraîne le problème et c'est pour ça que la Torah nous interdit cette viande. Il écrit encore la même chose dans Vaïkra 11-13. Il dit que celui qui mange le off hadores, un rapace, un aigle par exemple, alors cette consommation entraîne la arzariut balev, il va devenir cruel ce bonhomme, ça donne un peu de cruauté. Donc on voit bien qu'il y a un problème lié à la viande elle-même. Il dit aussi que le lait d'un animal non cachère, du lait de truie par exemple, ça peut entraîner des difficultés lors de l'accouchement pour une femme qui accouche. Ça peut aussi entraîner la tsaraat, la lèpre pour le bébé après, etc. Bref, ça c'est des choses apparemment qui sont liées, c'est naturel. Donc ce n'est pas un problème de canaux célestes qui se bouchent quand on mange quelque chose de pas cachère. Alors c'est intéressant que le Ramban qu'on a cité tout à l'heure, le Ramban lui-même, dans Cholim Dafé, qui n'était pas d'accord avec le chidouche du Tosfot, quand Tosfot disait que la garantie de la Kadosh Baruch Hu, que le tzaddik ne va pas avoir de takala, etc., il dit c'est uniquement sur la consommation, le Ramban disait je ne vois pas la différence entre un issur consommation et un issur Shabbat, quelle différence? L'Ichoura, d'après ce même Ramban, on peut répondre au Ramban, on peut lui dire voilà la différence, c'est que le issur consommation, selon toi, c'est un issur qui est de nature à boucher la Neshama. Machaïnken, le fait de transgresser Shabbat. Mais bon, je referme la parenthèse. Un quatrième Rishon qui pense ça encore, c'est le Rashbam. Rashbam, Vaikra 11.3, écrit que la consommation de non kasher, ça abîme le corps, pas seulement la neshama, mais le corps. Et il le prouve à partir de la Gemara Shabbat, Peiva Vamoudbet, la Gemara qui dit que Goïm Chavil Gufayu, les Goïm ont chaud. Pourquoi ils ont chaud au corps, les Goïm? Parce qu'ils mangent des shkatsim ou romasim. La Gemara dit les Juifs ont chaud. Pourquoi? Des daigebe mitzvot, parce qu'ils sont toujours inquiets, il faut accomplir une mitzvah, ils sont toujours sur le qui-vive, de ne pas rater une mitzvah ou de ne pas enfreindre une avéra. Alors les Goïm, pourquoi ils ont chaud parfois? Pourtant, ils ne sont pas sur le qui-vive des mitzvot, ils vivent tranquille, peinard, pépère. Pourquoi ils ont chaud eux aussi? Pour la Gemara, parce qu'eux, ils consomment shkatsim ou romasim, ils mangent comme ça des petites bestioles et tout, et ça, ça réchauffe le corps. Qui est-ce qui a froid finalement? Ceux qui mangent kasher, mais qui ne s'inquiètent pas trop des mitzvot. Eux, ils n'ont aucune raison d'avoir chaud. Le Meiri, un cinquième Rishon, le Meiri dans Avot, Pere Gimel Mishnah Yud Dalet, semblerait là-bas qu'ils disent que le problème dans le Chazir, c'est qu'il est Janim As lui-même, et c'est ça qui a devancé le Yissour, c'est venu, ça a entraîné le Yissour. Le Ralbag aussi, le Ralbag dans Parashat Shmini écrit Mishum Shebachar Be Israël, parce que Dieu a choisi le peuple juif. C'est pourquoi Dieu leur a interdit les aliments qui abîment, les aliments qui vont abîmer le corps et abîmer le sechel et la pensée. Donc apparemment, c'est quelque chose qui est lié à l'aliment lui-même. Dans Mishpatim aussi, écrit le Ralbag, dans Shemot Chavbet, la Tohelet Yud 14, dans le Ralbag, dit « Les hasir asakana ou les hamid abriyut ». Dieu a interdit les consommations interdites, les animaux pas cachés. Pourquoi? Pour écarter les dommages qui en découleraient et aussi pour maintenir la bonne santé. Donc apparemment, pour lui, c'est bon pour la santé de manger cachère. Le chinour, un septième rishon, dans mitzvah Aïn Gimel ou dans d'autres éditions, c'est Aïn Tef, la mitzvah de ne pas manger la terefa, dit que les ma'achalot asurot ont été interdits parce qu'ils entraînent des dommages au corps. C'est mauvais pour la santé. Et dit, si jamais le médecin te dira, mais non, il n'y a aucun problème, tu peux manger du cochon, il n'y a aucun problème, eh bien, tu peux lui dire que le médecin qui t'a ordonné de ne pas en manger, il s'y connaît mieux que lui. Ce médecin, c'est le bon Dieu. Il a décrété que c'était un problème de santé. Alors, Chinuch, il répète cette chita encore dans d'autres endroits, dans Mitzvah Kouf Memzaïn sur le Chélev, le Yissour des graisses interdites, dans Mitzvah Kouf Memchet sur le sang, interdit de consommer le sang, et dans Mitzvah Kouf Nundalet sur les Behemoth Tmeot. Et encore le Rashba. Le Rashba et le Hagaot Hasheri sont cités dans le Rama, dans Yeredea Siman Pealef, Seif Zain. Il y a encore le Ran. Le Ran dans Drashot Aran Drush Yudalef dit que si jamais le Beit Din a autorisé du Chelev, Chelev c'est une graisse interdite. Et le Beit Din s'est trompé. On a dit lequel est caché, lequel n'est pas caché. Le Beit Din dit celui-là caché. C'était pas vrai, c'était l'autre. Ils sont trompés. Moi, comme un idiot ou comme un chacham, j'ai écouté le Beit Din et j'ai mangé. Mais finalement, j'ai mangé pas caché. J'ai mangé un aliment non caché. Dit le Ran par le mérite de la mitzvah, que tu as écouté les chachamim, tu n'as pas commencé à faire le mal, le rav il a dit je fais, comme tu as écouté le Beit Din, par le mérite de cette mitzvah, le bon Dieu va te protéger et reprendre le timtum qui est en principe lié, le nezek, les dommages liés à cette consommation. Stop, qu'est-ce qu'on voit de là? Pourquoi le Ran il n'a pas dit beaucoup plus simple, que dans la mesure où le Beit Din a dit kasher, halakhiquement c'est kasher, il n'y a plus de timtum. C'est qu'apparemment, le timtum n'est pas dépendant du péché. Il est dépendant de la texture même de cette viande, de ce que tu vas manger. Si ce n'est pas kasher, il y a timtum. Il y a besoin d'un S, entre guillemets, que Dieu enlève ce timtum parce grâce à ta mitzvah. Les Maasé, il y a un autre ran dans Nedarim d'Afutret, duquel les machemins un peu, enfin plus qu'un peu, c'est écrit comme le Ritva qu'on avait cité déjà, qui disait que les Maachalot Asurot, c'est des Issour Gavra. Il dit tous les Issourim de la Torah, c'est Issour Gavra. Les Chora, si on est médaillé du Ritva comme tout à l'heure, c'est une preuve inverse. Apparemment, Yesh le Taretz. Un onzième Rishon, le Yireim. Dans Mitzvah Ayin Gimel, il dit la même chose, il le prouve à partir de Masechet Shabbat, Kuf Mem Hei Amud Bet, où il est écrit Nipnema Goyim Mezuhamim. Pourquoi les Goyim sont écœurants? Alors il parle des Goyim de son époque. Les Goyim de son époque étaient écœurants. Les Juifs se lavaient, les non-Juifs ne se lavaient pas souvent à l'époque. Vous savez, les Juifs, ils devaient se laver pour des raisons de Tahara, mais les Goyim, voilà, c'est nouveau que les Goyim se lavent. Ça fait même pas un siècle. Et remonter 3-4 siècles en arrière, oh, il mettait les pinces à linge. Et remonter encore plus loin à l'époque, il y a 2000 ans, vous imaginez même pas. Comment? Ça dépend où, ça dépend qui. Ça, c'est les Romains. Ça dépend où, ça dépend qui. Alors, oui, bon, là on nous parle dans l'Agmara. L'Agmara, c'est à 1600 ans à peu près. Et en Irak, non, pas nécessairement. Il n'y avait pas les bains. Hershéié. Pourquoi les goïms sont sales et dégoûtants? Il dit, parce qu'ils mangent aussi des choses dégoûtantes. Ils mangent un serpent, ils mangent un ver de terre. Qu'est-ce que tu veux? Des gens comme ça, ils sont dégoûtants. Bon, peu importe, mais on voit qu'il y a une notion de dégoûtant dans la Mahalot Asurot. Ce n'est pas juste parce que c'est interdit, auquel cas on dirait, bon, ben, toi, t'es goy, c'est moutard, il n'y a aucun souci. Non, il y a un reproche, entre guillemets, même envers le goy qui mangerait des choses dégoûtantes. Il y a encore le Roche qui cite le Maharam de Rothenburg, son rave. Dans Yoma Perekret Siman Yudalet, le Roche dit comme ça. Le Roche dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une Sheila compliquée une fois. Il y avait un malade. Le médecin a dit, ce malade, il va mourir. S'il ne mange pas de viande, il est mort. Il faut qu'il mange de la viande dans quelques heures, sinon il est mort. Je ne connais pas cette maladie où il faut manger de la viande, mais peu importe. Et peut-être qu'elle n'existe pas, peut-être que c'est l'erreur du médecin. Mais la Torah nous impose de suivre le conseil médical du médecin, donc il n'y a pas le choix. Donc c'est la halakha. Le médecin a dit, s'il ne mange pas de la viande, il va mourir dans la journée. Manque de peau, ce jour-là c'était Shabbat, et il n'avait pas de viande chez lui à la maison. Alors la famille a demandé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux options. Soit on lui donne de la viande pas cachère qu'on a, ou que le goy a à côté, pas de souci, il va manger du cochon, il a du cochon à côté, il peut lui donner du jambon. Soit on prend un animal et on fait la shrita, et on fait tout ce qu'il faut, et on cachérise et il mange. Le problème, c'est que faire la shrita à Shabbat, c'est un petit peu assourd, hein, c'est assourd minatora de faire une shrita à Shabbat. Donc comment on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux transgresser Shabbat? C'est un issur karet Shabbat. Ou bien, il y a chiyuv mitat beddin et tout, ou bien manger pas kasher. La logique indiquerait que Shabbat, c'est beaucoup plus grave. Donc autant manger du cochon, de toute façon, c'est un pikuach nefesh, il n'y a pas le choix. Malgré tout, dit le Roche, il faut faire la shrita et qu'il mange une viande kshera. Pourquoi? Il dit parce que de toute façon, c'est un cas de pikuach nefesh. Donc tu dois transgresser, la transgression est autorisée. Maintenant, le choix entre la transgression grave du Shabbat, parce que c'est chiyuv Shabbat, ou chiyuv karet, ou bien la transgression moins grave du cochon, il vaut mieux quand même prendre la transgression grave, parce que si tu manges du cochon, le timtum va rester, ça va être metamtem libo. Si tu as transgressé Shabbat, il n'y aura pas de timtum alef, parce que ça c'était nécessaire halakhiquement, c'était même moutard de le faire. Mais le cochon, quand bien même c'était moutard de le manger, malgré tout c'est metamtem alef. Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas comme le Maharal une nouvelle fois. On voit que le Roche aussi, le Maharam de Rothenburg, pense que ce n'est pas le péché qui amène le timtum alef. C'est la texture de cette viande qui amène le timtum alef. En ala asot. Et encore un 14e Rishon, c'est Rabbi Yosef Albo. Sefer Haïkarim Ma'amar Gimel Perek Tetva dit que le Timtum était applicable même avant Matan Torah. Avant Matan Torah, quelqu'un, Avraham Avinu, Avraham, il mange du cochon, il avait Timtum Alef. Avant Matan Torah, ce n'est pas lié à la Torah. Or, avant Matan Torah, Avraham Avinu, il n'avait pas besoin de faire attention aux mitzvot. Il n'était pas obligé. La Gemara, certes, dans Yoma Kafret, Kedushin Tebet, nous dit qu'il le faisait, mais il n'y a pas d'obligation à l'Afrique. Ou bien Avraham, ou bien un autre, pour une autre personne. Avant Matan Torah, donc il n'y a pas de Avera, et pourtant il y a un Timtum. Donc on voit bien que le Timtum n'est pas lié à la Avera. Le Rashbat, encore dans Magen Avot, Chelek Gimel, Perek Samer Gimel, écrit que la consommation non kshera, c'est quelque chose qui entraîne un nézek au mezeg ha-adam, au tempérament de la personne. Son caractère va être un petit peu perturbé, il aura un tempérament. Un peu comme on avait dit dans le Ramban, que si tu manges un rapace, ça va te rendre cruel, si ceci, etc. etc. Il y a le Bechor Shor aussi, dans Vaikra 11.2, il écrit que c'est ma'us mezuhamru. Il y a un problème dans la viande elle-même, c'est quelque chose d'écœurant. Sans parler du Yisour. Le Sforno écrit dans Vaikra 17.11, que sur la consommation du sang, dit Meshiv Hanizon Mimeno El Tivro Abemi. Celui qui consomme du sang, ça le ramène à une nature animale. Il se transforme un petit peu en animal. C'est un truc lié. Il y a une réalité, c'est pas juste il y a un péché, ta neshama est bouché, etc. Le Radbaz, dans Metsudot David, c'est Mitzvah Resh Ainhe, Mitzvah Kuf Pehe aussi dit la même chose. Le Hakeda aussi dans Sha'ar Samer, le Abrabanel. Le Abrabanel, lui, il dit, je suis déjà passé au Acharonim, vous remarquez, le Abrabanel, lui, il dit, dans Vaikra 11.13, c'est page Samerhe dans l'édition classique, il écrit la même chose aussi dans Yeshuot Meshicho, dans Iyun Revi, Perek Gimel, page Resh Alev dans l'édition que je possède, qui n'est pas de Dafka classique. Il dit que la Torah a interdit les Machalot Asurot parce que c'est mauvais pour l'âme, ça abîme l'âme, ça, c'est mauvais de manger ça. Et il dit, mais pas comme ce que dit le Ramban qu'on a cité tout à l'heure. Pas comme Nachmanide qui dit que les Ma'achalot Asurot, c'est mauvais pour le corps. C'est mauvais pour la santé. Non, c'est quoi ces histoires? C'est pas vrai, c'est mauvais que pour l'âme. Il dit ce que dit le Ramban, que c'est mauvais pour le corps. Chalila le'aminken. Dieu préserve de croire une telle chose, ce que dit le Ramban. Pourquoi? Il dit, c'est comme ça, tu as transformé le Sefer Torah en Sefer Refuot. Alors pour toi, la Torah, le Sefer Torah, c'est quoi? C'est un livre de médecine, c'est des petits conseils de grand-mère, c'est Rika Zaraï, c'est quoi ces histoires? Donc il dit, je ne suis pas d'accord, la Torah, elle n'est pas là pour donner des petits conseils de grand-mère sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour le corps, mange ça et mange pas ça. Ce qui est bon ou mauvais pour le corps, tu demandes au médecin, tu ne demandes pas à la Torah. Il dit, le Nézek, c'est qu'un Nézek pour le Nefesh, pour l'âme seulement. Et il dit, la preuve. Premièrement, dit une preuve, tu vois bien que les goïms, ils mangent des choses qui nous sont interdites. Ils sont en pleine santé. Ne me dis pas que manger du cochon, ça rend malade. Il y a plein de goïms qui mangent du cochon, ils se portent très bien. Donc arrête de dire des bêtises. C'est qu'un problème par rapport au nefesh, pas par rapport au corps. Il dit, et plus encore, si la Torah se souciait de nous interdire ce qui est dangereux pour le corps, pourquoi la Torah n'a pas interdit toutes sortes de plantes très dangereuses? Il y a des plantes même mortelles. Il y a des champignons vénéneux, il y a des je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses mauvaises pour la santé. La Torah n'a pas interdit ces choses-là. Pourquoi la Torah n'a pas dit telle plante, c'est assourd de manger? Tu vois bien que la Torah, ce n'est pas un Sefer Refuot. Il écrit encore dans Vaikra Gimel Yudzaïn que sur le chélev, sur les graisses interdites, que c'est mazik, le mezeg ha-enoshi. Il y a encore le Rama, le Rama dans Yeridéa Siman Pe'alef, Siv Zain, et aussi le Shach là-bas dans Siv Katan Chavav. Le Shach va encore plus loin et il dit que si un enfant mange, s'apprête à manger un issour des rabanan, quelque chose qui est interdit mille rabanan, son père n'a pas la mitzvah et n'a vive metzouvé la afrisho. La règle, c'est que lorsqu'un enfant veut manger pas kacher, il n'y a pas une obligation de le séparer de ce pas kacher. Dit malgré tout, le père doit l'en séparer. Le père doit empêcher que son enfant, un petit enfant, consomme quelque chose de pas kacher. Dit parce que sinon, ça va entraîner un teva ra benafsho. Son âme sera impactée de cela. Donc on voit bien, c'est un enfant, il n'a pas la mitzvah, il n'a pas la avera, c'est un bébé, ça ne change rien. Et pourtant, il y aura quand même le timtum. C'est intéressant, là-bas il parle même d'un issur midérabanan, et c'est un chidouche de dire qu'il y a un timtum même dans un issur midérabanan. On aurait pu dire que ce qui a été interdit par la Torah, ce qui est interdit d'ordre rabbinique n'est pas nécessairement concerné. Il y a un netivot, le nesives dans Siman Reish Lamed Dalet, il dit que celui qui transgresse un issur de rabbanan, il n'y a pas besoin d'une kapara. Pourquoi? Dit parce que le issour midrabanan ne comporte pas réellement de pgam. Le seul pgam qu'il y a dedans, c'est uniquement le fait d'aller à l'encontre des chachamim. Mais en soi, ça ne comporte pas de pgam. Si on dit comme ça, un ma'achalot asurot midrabanan ne devrait pas amener de timtum. Il y a encore le Maharshal au nom du Orzaroua. Alors le Maharshal, c'est un Charon, mais le Orzaroua, c'est un Rishon. Il est cité, donc le Maharshal est dans Yamshel Shlomo, dans Yevamot Perek Yuddal et Siman Zayin. Il dit qu'il faut séparer un katan de ma'achalot asurot, un enfant, il faut l'empêcher de manger quelque chose de pas kasher, même un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge du chinour. Imaginez un bébé de 1 an, de 2 ans, il voit quelque chose de pas kasher, il veut le prendre, il veut le manger, il faut l'en empêcher. Pourquoi? Il ne commet aucune avéra. Pourquoi? Timtum alev. Apparemment, il y a Timtum alev dans ce cas-là aussi. Le Réma de Fano aussi, écrit dans Kanfei Yonah, Chelek Bet Siman Kufyud Alef, dit qu'il y a un pgam. Ce pgam, cette avarie suite à la consommation non kshera, s'applique même pour quelqu'un qui a mangé be'ones. Quelqu'un qui a été forcé de manger pas kasher. On lui a dit mange pas kasher ou je te tue. Il était obligé, la halakha lui impose. Il a une avera dans ce cas-là? Pas de avera. Et pourtant, il y a un timtum. Il écrit encore la même chose dans Tikkunei Tshuva, dans Mahadura Tinyana Perek Yutet, que même s'il n'y a pas de avera, c'était be'ones, c'est au contraire un mitzvah de manger pour sauver sa vie, pikuach nefesh. Malgré tout, il y a un timtum à l'aide dans ce cas-là. Le shla. Le Shla dans Maseret Yoma Ilchot Tshuva écrit que celui aussi qui est né nas de manger quelque chose de pas kacher, il doit faire une tvila après, etc., etc. Le Kliyakar écrit dans Vaikra 11, Pasuk Aleph, il dit grosso modo comme le Abrabanel, je crois même qu'il cite le Abrabanel là-bas, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le Ramban et avec ceux qui disent que c'est que les Ma'achalot Asurot endommagent le corps. Il dit c'est pas un problème de santé, il dit c'est un problème pour le Nefesh seulement, mais il reconnaît qu'il y a un problème pour le Nefesh lié au Ma'achalot Asurot. Le Iyun Yaakov, dans Sota Lamed Vav Amud Bet, il dit que Timtum Alev empêche même de comprendre les sciences, pas que la Torah. Quelqu'un qui mange quelque chose de pas kasher. Et donc, là-bas, il parle des sciences ou d'apprendre les langues. Il parle des langues là-bas. Quelqu'un qui mange pas kasher, ça lui bouche le cerveau aussi, apparemment. Donc, on voit bien que ce n'est pas un sujet religieux, selon lui. Ce n'est pas une notion religieuse parce que c'est péché. C'est juste que cette viande-là entraîne cela. Le Rachaim HaKadosh dans Vaikra 11, 10, écrit que même une achila béchogeg, il a mangé sans faire exprès, malgré tout, c'est méchaquette cette année fèche, ça va salir l'âme. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le pasouk dit véchaquette siou lachem, C'est quoi Veshéket si vous la rame? Pourquoi ce Vav? Dit le Vav motif que même Beshogeg. Tu n'as pas fait exprès, malgré tout, c'est Metamtem, le cœur. À ce compte-là, on peut aussi citer le Netziv qu'on avait cité tout à l'heure dans Meromé Sadeh Chulin He qui va avec ce Orachai Makadosh. Et ça nous fait une 30e opinion. 31. Abshimshun Raphaël Hirsch dans Chorev Chelek Bet, c'est dans Chokim Yuddalet, page 297. Il y a encore Abshimshun Shkop dans Chibushé Nedarim Siman Aleph. Il dit que tous les Issouré Torah, il y a une Siba Mukdemet. Il y a une raison à l'origine qui est interdite pour laquelle la Torah l'a interdit. Et la Torah a interdit de manger des choses qui vont endommager, qui vont te causer un Nézek. Donc on voit bien que le Nézek était présent avant le Issour. C'est pour ça qu'il y a le Issour. Pas comme le Maharal qui dit il y a le Issour, dès lors. Le Nézek en découle. Non, l'inverse. Il y a le Shulchan Aruch Harav aussi, Baal HaTanya, dans Siman Shimem Gimel Seif Yud, il dit bien qu'il soit autorisé à un enfant. On a le droit de donner à un enfant à Shabbat un gâteau sur lequel il y a des lettres. Vous savez qu'à Shabbat, si on fait un gâteau d'anniversaire, on écrit joyeux anniversaire dessus. On écrit avec un truc qu'on ajoute dessus. On ne peut pas le couper à Shabbat parce que tu casses la lettre, c'est mochek, il ne faut pas effacer. Si ça a été cuit avec, ça fait partie, c'est autre chose. Je ne parle pas d'un biscuit petit beurre, c'est écrit dessus. Ça, c'est autre chose. Je parle d'un gâteau où j'ai écrit avec de la crème chantilly dessus quelque chose. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le couper sur les lettres à Shabbat. Il faut manger le reste et laisser le milieu. On ne peut pas couper là-bas. Dit malgré tout, on peut donner à un enfant. Si lui, il va couper là-bas, etc., c'est pas grave parce que c'est un petit bébé. C'est pas grave, on peut le laisser. C'est pas la fin du monde. Mais faut pas laisser l'enfant devant des maachalot asurot, devant du jambon, non. Parce que là, c'est grave s'il le mange. Je vous demande, mais quelle différence? Dans les deux cas, c'est un péché. Là, c'est péché de Shabbat, et là, c'est péché de jambon. Quelle différence? Apparemment, il y a une différence. C'est que le timtoum alev existe dans le jambon, même s'il n'y a pas de péché. Tu peux le laisser transgresser Shabbat et casser le gâteau où c'est écrit, parce que pour lui, c'est pas Shabbat. Lui, il est petit, il n'a pas la mitzvah, c'est un bébé, il a 2 ans. Mais le jambon, non. Parce que là, c'est pas lié à la avera, c'est le timtoum en soi. Allez, je vous en cite un 34e, ça sera le dernier. Le Beit HaOtzar. Beit HaOtzar, c'est Rabbi Yosef Engel. Chelek Aleph, Kal Kuf Mem Dalet. Il cite le Maharal dont on a parlé. Alors, il cite le Maharal à partir d'un autre livre, pas dans Tiferet Israël Perekret, mais dans Gourarié. Je crois que c'est dans Parashat Veiga, je ne suis pas sûr. Il cite le Maharal dans Parashat Gourarié qui dit ça, qui dit que les gens se trompent et qu'en fait, c'est parce qu'il y a un péché qu'il y a le Timtoum. Ce n'est pas parce qu'il y a le Timtoum qu'il y a le péché. Et il amène 2 preuves contre lui. La première, de la Gemara dans Baba Metzia, Dafnun Chet Amudbet, la Gemara dit Imayager, s'il y avait un converti, un juif qui n'est pas né juif, il est né goy, il s'est converti, il est devenu juif. Uba l'ilmod Torah, et il vient en Bet Midrash pour étudier la Torah, Aliomarlo, alors il ne faut pas lui dire Peshe achal nevelot utrefot shkatsim urmatsim, ba l'ilmod Torah. Une bouche qui s'est gavée de shkatsim, urmatsim et de jambon, vient venir maintenant parler de divrei Torah. Tu vas étudier la Torah alors que tu es tout plein de péchés en toi. Ça, il ne faut pas lui dire. Et arrête là-bas. C'est pas un péché de Avera. Quand il était goy, il n'avait pas de Avera de manger. Alors c'est quoi cette histoire? C'est qu'apparemment, il y a un timtoum même quand il n'y a pas de Avera. Ça, c'est la première preuve qu'il cite. Deuxième preuve, à partir de Sota. Sota, Dafyudbet, Amudbet. La Gemara dit concernant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu, vous savez, quand Biti Abba de Parole a pris, elle a voulu l'allaiter, pas personne, ça ne marchait pas, jusqu'à ce qu'on ait recours à une nourrice juive, en l'occurrence sa mère. Et là-bas, la Gemara dit pourquoi il y a eu ça, pourquoi Dieu a fait en sorte que Moshe ne veuille pas du lait d'une goya. Dit péché atid le daber imashrena yeinak davar tamé, une bouche qui va être amenée dans le futur à parler directement avec Dieu, elle va têter quelque chose de pas cachère, puisque la maman, la nourrice Goya en question, elle a mangé des choses non cachères, des choses pas cachères. Donc après, le lait, il n'est pas vraiment tip-top. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, c'était un bébé. Il n'y a pas de péché. Donc on voit qu'il y a quand même une trace, il y a quand même un timtoum indépendant du péché. Moshe n'avait pas le péché de manger du pas cachère. Et pourtant, on lui a dit, ne le mange pas. Dafka, ce n'est pas cachère. C'est ce que le Rama disait, le Rama dans Siman Pesahim de tout à l'heure, c'est que le lait d'une femme non juive, il n'y a pas pour un bébé, c'est cachère. C'est juste qu'il vaut mieux éviter, il dit, à cause du timtoum. Donc on voit encore une fois que ce n'est pas lié. J'ai pensé encore une autre preuve à partir d'un midrash. Il y a un midrash, il est cité dans Tosfot, dans Maseret, Avod Azara, Dafiud, Amudbet. Je ne l'ai pas retrouvé ce midrash ailleurs, je ne sais pas quelle est sa source. Le midrash dit « Chalav metame, chalav metaher ». Le lait peut être metame comme il peut être metaher. Où est-ce qu'on a vu du lait qui est metaher? un bébé qui a été allaité par une juive, et ça a été métaère un petit peu ce bébé-là. Il dit, c'est la fameuse histoire avec l'empereur Antonin. La Gemara raconte, enfin ce Midrash raconte que l'empereur Antonin, qui était ami de Rabbi Yehuda Hanassi, eh bien déjà les parents se connaissaient. Et la maman de Rabbi Yehuda Hanassi et la maman de Antonin se connaissaient aussi. Ils étaient amis. Et les Romains avaient fait une xéra, interdiction de Brit Mila. Donc les Juifs étaient embêtés, ils peuvent faire la Brit Mila sous peine de mort. Donc, le père de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était un grand rabbin, il a quand même fait la Brit Mila à son fils en cachette. Et un jour, les Romains ont entendu parler que le rabbin a circoncis son fils. Il dit, on va vérifier. Alors ils ont dit, on va vérifier, on l'attrape, si c'est le cas, on le tue. On tue tout le monde. Alors la maman, qui elle était dans les coulisses, puisqu'elle était de, elle était, c'était la femme de, c'était la mère du futur Antonin, donc elle était déjà de famille concernée, elle a vite prévenu la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle dit, attention, il y a la police qui vient bientôt chez toi pour vérifier si ton fils est circoncis, ils vont tous vous tuer. Alors ils ont proposé de faire un échange les bébés. Ils avaient un bébé qui avait le même âge, c'était Antonin en question. Le futur Antonin. Quel Antonin? C'est une grande discussion chez l'Achronim. De quel Antonin on parle? Certains disent c'est Marc Aurèle qui était un empereur Antonin, d'autres disent c'est Commode, d'autres disent c'était avant, c'est Antonin le Pieux. Bref, mais les dates ça correspond pas top. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé les bébés. Et le Midrash dit, ils n'ont pas échangé pour 5 minutes. Ça a pris quelques heures, le temps d'attendre patiemment à la police a vérifié, ils sont venus, ils ont regardé, etc. Bon, ça a pris quelques temps. Pendant ce temps-là, le Midrash dit, bah, il y a quelque temps, Antonin, il a eu faim. Qu'est-ce qu'elle a fait la maman de Rabbi Yehuda Hanassi? Elle a un bébé de sa voisine qui pleure, il a faim, il n'y a pas les maternats, etc. Alors elle a allaité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle l'a allaité pour qu'il arrête de pleurer, c'est normal. Dit le Midrash, ce lait qu'il a tété, c'est ça qui lui a mis de la kedusha en lui, et ça qui a fait, selon certains, qu'il s'est converti après, selon tous, qu'il était gentil avec les juifs, etc., etc., etc. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Ça, l'histoire du Chalav Metaher. La mashmaout du Midrash, c'est que de la même manière que Chalav Metaher, Chalav Metamé aussi. Ça veut dire que la même situation à l'envers, ça laisserait une trace. Un bébé qui téterait d'une femme qui a mangé pas cachère, ça laisserait une trace. Il y a un timtoum. Et donc, on voit encore une fois, pas comme le Maharal. Parce qu'un bébé, il n'a pas de Avera quand il mange ça, quand il tète ça. Ce qui est un peu embêtant, hein, c'est qu'il y a certains Acharonim qui se sont dit, les rois durant la même période, où Antonin a eu faim, Rabbi Yehuda Hanassi, le bébé, lui aussi, il a eu faim. Donc lui aussi, il a dû être allaité de l'autre côté. Comment tu t'arranges avec ça? C'est embêtant parce que c'est le Midrash qui dit « Chalav metame, chalav metaer ». C'est bizarre. Et le plus embêtant, c'est que certains l'ont affirmé. Le Seder Adorot, le Rav Halpern, Seder Adorot dans Chelek Bet, le Seder Adorot, Daf Koufret Amud Alef, sur le Erech de Rabbi Yossi Ben Kisma, il écrit que Rabbi Yehuda Hanassi cite le Midrash et il dit que là-bas, c'est écrit, ce qui n'est pas dans Tosfot. Il dit que Rabbi Hanassi, lui aussi, il a tété de la mère de Antonin. Et pareil, le Réma de Fano dans Sefer Gilgulé Neshamot dans Siman Koufka Fret. Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être la garantie qu'on voit dans ma Sechet Sota d'Afud Bet, c'est que pour Moshe Rabbeinu, qui va être amené réellement à parler avec Dieu face à face. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, ben, ah, mais c'est pas encore Moshe Rabbeinu, peut-être. Je ne sais pas, mais c'est quand même étrange. voilà, il y a après encore d'autres sujets dans la Acharonim. Bon, maintenant, je vois qu'il est tard. Il y a un sujet dans l'Acharonim, savoir justement par rapport à cette halakha-là, on a demandé au Khatam Sofer, dans Rahaim Siman Pei Gimel, on a demandé au Khatam Sofer, il y avait une personne, Rahman Al-Etzlan, qui était dérangée mentalement, un fou, il n'est pas normal. Et les parents ne savaient pas quoi faire avec, ils voulaient le mettre dans un asile, un bétrolim, un endroit où on s'occupe spécialement de ces gens-là. On ne pouvait pas le garder à la maison, c'était trop dur. Le problème, c'est quand on le met dans cet hospice, la nourriture n'est pas kshera. Il a mangé pas kasher, ils vont lever n'importe quoi. Ils ont demandé au Rav, étant donné qu'il est fou de toute façon, il n'est pas astreint au mitzvot. Un choté patour mina mitzvot. Donc, on a le droit de le mettre là-bas ou pas? Khatam Sofer, il a dit, alpi alacha, c'est mouta. Quelqu'un qui est vraiment fou, il n'est pas tenu de manger kasher. S'il ne comprend absolument rien, c'est comme un bébé. Il n'est pas tenu de manger kasher. Il n'a pas aucun da'at. Pas qu'il est un petit peu dérangé, il est complètement dérangé. Il a le droit de manger pas kasher. Il dit, néanmoins, il ne faut pas le mettre quand même, parce que ça va être metamtem et libo. Qu'est-ce qu'on voit? Il est en train de dire qu'il n'y a pas de Avera, et pourtant, il y a un timtoum quand même. Donc, il s'est basé sur tous ces Rishonim et ces Achronim qu'on a cités. Où il y a un timtoum même s'il n'y a pas de Avera, pas comme ce que dit le Maharal. Alors, le Igrot Moshe, il atténue un petit peu ça. Il dit dans Rachaim Chelek Bet du Igrot Moshe, Siman Peichet, dit ça, c'est uniquement s'il y a espoir que cet enfant guérisse, qu'on arrive plus ou moins à en faire quelqu'un de normal. Et là, il sera, oui, un jour astreint au mitzvot. Mais s'il est condamné que d'après la médecine, il n'y a aucune chance de l'en sortir, alors on peut le mettre, même si c'est métamtem et talève, et qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Je termine avec une phrase de Rabbi Yosef Messas, parce que là il commence à être tard, Mechila. Rabbi Yosef Messas, il écrit dans l'akdama de son livre Zevach Toda, une akdama magnifique, comme beaucoup de choses qu'écrit Rabbi Yosef Messas. Dans l'akdama de Zevach Toda, il écrit comme ça, il dit, voilà, on parle de savoir, est-ce que les ma'achalot asurot réellement c'est metamtem et alev, est-ce que ça rend les gens avec un mauvais caractère ou pas, est-ce que ça a une influence sur le caractère, sur le tempérament. Il dit, moi je t'amène une preuve indiscutable. Ah bon, okay. J'ai une preuve indiscutable, tu manges pas cachère, ça abîme le nefesh, ton tempérament, ton caractère va être perverti par ces consommations. Il dit, j'ai une preuve indiscutable. Il dit, ma preuve, tu la trouves dans le monde entier. Prends un journal dans n'importe quel pays, n'importe quel journal, partout. Un journal où on te ramène les news qui se racontent. Regarde ce qui s'est passé. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un crime atroce, dans des conditions abominables, de manière écœurante. Ce n'est pas humain de faire une chose pareille. Il dit, c'est inhumain d'en arriver là, qu'on puisse se comporter. Il y a toujours des crimes odieux. Pas un monsieur, il a tué l'autre parce qu'il voulait voler son argent, etc. Non, on parle d'un crime odieux et abominable. Comment un homme, comment un être humain peut en arriver là? Il dit, eh bien, tu verras que ça n'arrive que chez les goïms ou chez les juifs qui se comportent comme eux et mangent pas cachère. Tu trouveras pas dans une communauté de gens qui mangent strictement cachère ce type de meurtre abominable, cette cruauté poussée. Ça n'existe que chez les gens qui consomment pas cachère, juifs ou non juifs. Mais tu consommes pas cachère, tu manges des animaux cruels, et tu manges du lion, tu manges de l'aigle, et ben ne t'étonne pas, ça te donne cette capacité. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toute personne qui mange du lion va devenir un lion et va découper son voisin. Mais si son caractère l'y porte, eh bien il pourra en arriver là. Alors que s'il mangeait strictement cachère, s'il faisait bien attention à la cacheroute, même s'il a un sale caractère, il n'arrivera pas à être si cruel que ça. Il dit, ça c'est la preuve. Béhemet, que ma'achalot ha'asurot, ça abîme le nefesh et ça pervertit le caractère. Chazak et Shavua Tov. Oui, bien sûr.